Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant, votre rendez-vous hebdomadaire de sport, hein, 19h-20h30, on va commenter l'actu foot, on va commenter l'actu sport aussi avec nos différents intervenants, et puis ce soir, on est ravi de l'avoir, hein. Il nous a accompagné pendant une grande partie de ce mondial de foot qu'on a vécu sur notre antenne, hein. On avait promis d'aller au bout avec lui, on y est pratiquement allé, il y avait une petite partie manquée, c'est notre ami Guy Michelin. Guy, bonsoir.
Eh bonsoir ouais, à tous.
Ça va, quel plaisir. Bonne année encore, hein.
Eh bonne année à tout le monde.
Voilà.
Oui.
Ça va, pleine forme, bien récupéré le mondial.
Ouais, très bien.
Ouais. Voilà. Donc on va commenter naturellement l'actu foot et puis vous nous parlerez un petit peu de ce qui a été votre carrière, vos meilleurs souvenirs, hein, votre itinéraire. On va saluer celle qui fait ses grands débuts avec nous, la voix féminine du sport. C'est Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Philippe.
Tu vas bien?
Très bien.
Pleine forme.
Très bien.
Bon, grande première pour toi, c'est bien, hein. C'est un beau métier, donc vas-y, persévère. Il est avec nous, Abou. Salut Abou.
Salut Philippe, ça va toi, toujours.
Ça va, pleine forme.
Toujours.
Et puis, il arrive aussi tout juste dans ce studio, c'est notre ami Antoine. Bonne soirée Antoine, ça va bien?
Oui, ça va super.
Pleine forme.
Une belle semaine de sport.
Ah oui, on a vécu un beau week-end de sport. Hein. Il y en avait pour tout le monde.
Multisport,
hein. Tennis, handball, hippisme, tout, foot, tout. Hein, donc, on va effectivement en parler dans la fin de cette émission concernant le tennis et puis le hand ainsi que même le patinage artistique. Oui. Voilà. Allez, on va commencer avec l'actu foot. Guy, très brièvement, cette 20e journée, ça y est, on a attaqué les phases retour, hein,
ouais,
de nos championnats. J'ai l'impression que c'est un petit peu les occasions manquées pour le Paris Saint-Germain ce week-end.
Le Paris Saint-Germain, pour Lens, pour Marseille. C'est-à-dire que les 6 premiers du championnat n'ont pas réussi à gagner.
Ouais.
Alors bon, le problème, c'est que ça laisse un peu ouvert la suite de la saison, parce que les 3 points du PSG devant Lens ne sont pas une garantie pour la suite, parce que ce qu'on a vu hier contre Reims, par exemple, c'est inquiétant. Voilà. Ouais. Inquiétant dans la mesure où, quand on a la chance de prendre 3 points en jouant mal contre une équipe comme Reims, et qu'à la dernière seconde, on s'est piégé sur un contre et qu'on ne revient qu'avec un seul point, ouais, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que ce n'est pas dans le standing du club, ce n'est pas dans son statut non plus. Et il y a la proximité de la Ligue des Champions, ouais, où on sait que le PSG est toujours attendu par la Ligue des Champions. S'il rate encore une fois la marche, ça risque d'être un peu catastrophique. Ouais. Quoi.
Mais enfin, il paraît que ça ne va pas mieux au Bayern de Munich.
Bon, alors justement, j'allais y venir aussi.
Ouais.
À mon avis, il y a un problème avec tous les grands clubs européens depuis la fin de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tous ces grands clubs ont beaucoup d'internationaux. Le PSG, il y avait des Espagnols, des Argentins, des Italiens. Enfin, pas d'Italiens, non.
Non.
Des Espagnols, des Argentins, des Brésiliens et des Français.
Oui.
Bon, ils reviennent, ils ont tous fait une Coupe du Monde qui était un peu décalée par rapport aux autres saisons. Et j'avoue que ça doit un peu jouer sur les organismes et aussi sur le mental. Bon. Parce qu'il y a quand même une décompression après.
Oui.
Les Argentins, avec leur victoire en Coupe du Monde, forcément ils décompressent derrière. Les Français,
inconsciemment fatal.
Et oui, les Français, eux, c'est le contraire. Ils décompressent pas, mais ils sont déçus.
Ouais.
Il y a la déception. Bon. Mmh. Au Bayern, la claque qu'a pris l'équipe, la Mannschaft, ça fait quand même du mal. Donc, et comme dans la Mannschaft, il y a beaucoup de joueurs du Bayern. Le Bayern piétine un peu. Bon. Mmh. 3 matchs nuls consécutifs. Le Real, champion d'Europe, ils ont fait 0-0 contre la Real Sociedad. Ils ont 5 points de retard sur le Barcelone.
Sur le Barça, oui. Qui a repris un petit peu de...
Ouais. Et oui, et oui. Liverpool, qui a été quand même l'équipe type des 4-5 dernières années avec Manchester City. Ben, Liverpool est dans les choux. Ils ont encore perdu contre Brighton ce week-end. Oui. Chelsea n'est que dixième. Chelsea a été champion d'Europe il y a deux saisons. Alors bon, il y a quelque chose. Il y a un malaise au niveau des grandes équipes. Voilà.
D'accord. Alors, vous en pensez quoi, messieurs? On va saluer El Hadji qui vient aussi d'arriver. Hein. Alors, vous intervenez, monsieur et mademoiselle, faut pas l'oublier. Hein, voilà. Donc, ces grands clubs qui finalement ne sont pas si fringants que ça, actuellement, on pouvait s'y attendre?
Ouais, franchement, bon, moi, je pense qu'on pouvait s'y attendre un peu. Avec le PSG hier, bon, à 10 contre 11 en deuxième mi-temps, même s'ils ont mieux joué, c'était assez compliqué. Et voilà, à la fin, on se fait punir. C'est le manque d'expérience, hein, toujours avec beaucoup de joueurs d'expérience, mais c'est quand même un manque d'expérience de se faire prendre un but à même pas 20 secondes de la fin. C'est pas la première fois que ça arrive. En scène européenne, on le voit aussi. Voilà, là, on voit aussi un Bayern un peu timide. Voilà, comme je voulais revenir un peu sur ce que Guy disait, mais là, on a vu par exemple aujourd'hui, il y a une petite surprise où il y a Raúl Cancelo qui a rejoint le Bayern de Munich. C'est un bon ailier qui vient de rejoindre quand même l'effectif. Moi, je regarde les matchs et en passant aussi, bon, j'ai pas envie de tout, voilà, mais en passant par le match du Real de Madrid, le 0-0, moi, je l'ai regardé. Franchement, je pense que c'est le meilleur match du Real Madrid depuis le début de saison. Tu vois, dans le jeu, c'était fantastique. Il y a eu des occasions de fou, voilà, ce qui manquait, c'était des buts, réellement. Maintenant, moi, je préfère les voir, limite, maintenant, j'ai envie de te dire, Guy, je préfère les voir souffrir et gagner un match. Comme ils ont l'habitude de le faire, voilà, contre plein d'équipes, ils souffrent, ils perdent au début, à la fin ils reviennent, etc. Mais hier, il y avait du beau jeu. Moi, j'ai regardé tout le match hier, il y avait du beau jeu, et franchement, c'est dommage parce que c'était vraiment à ça. Et il y avait du beau jeu, il y avait la qualité, il y avait tout ce que Carlo Ancelotti avait mis en place et avait demandé. Et voilà, là, c'est dommage, quoi.
Ben, on voit les équipes qui souffrent le plus, c'est celles qui avaient le plus de joueurs à la Coupe du Monde. Donc je pense que ça a son impact. On voit en Angleterre Arsenal qui surperforme, mais c'est pas l'équipe qui avait le plus de joueurs à la Coupe du Monde. Le Barça, c'est une équipe aussi qui galère quand même en Ligue 1, c'est que des victoires 1-0. Le Real, pour moi, le Real, c'est comme tous les ans en fait. Ça part doucement en janvier, c'est pas trop sûr. Puis février, mars, ça monte en puissance. Avril, mai, ça va chercher la Ligue des Champions et ça finit le jeu. Le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est compliqué, mais le PSG, c'était même avant la Coupe du Monde. On sentait une différence quand même dans le jeu. Christophe Galtier qui a perdu la patte qu'il avait su mettre en début de championnat au mois d'août. Là, on se rappelle de ce match contre le LOSC où il leur en met 7. Et dans le jeu, c'est tout simplement formidable. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les grandes équipes, mais je pense que ça va revenir un peu, ça va revenir petit à petit. Il y a cette Coupe du Monde aussi, il y a cette trêve en plein milieu de la saison, c'était jamais arrivé avant, qui fait que ces équipes-là souffrent. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude. Je suis sûr que le PSG et le Bayern nous sortiront un grand match en février.
Oui, mais c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que le PSG a une perte de régime. Après, il faut pas aussi oublier qu'il y a que des stars au PSG. Je pense qu'ils ont voulu assurer quand même avant la Coupe du Monde, baisser un peu le rythme une ou deux semaines avant. Mais c'est sûr que c'est effrayant. Hier, la prestation est calamiteuse. Je suis content que Reims ait pu égaliser comme ça. C'est pas juste sur le papier. Oui. C'est aussi dans le contenu. Vraiment, ça allait pas. On peut remettre en cause la tête de Warren. Bon, après, il a 16 ans, donc on va pas lui tomber dessus. Mais collectivement, ça allait pas du tout pour les Parisiens.
En tout cas, tant mieux pour nous, pour le championnat. Hein. Parce qu'il y a match, exact, Guy, finalement. Il y a match entre PSG et Reims et même Marseille.
Il y a match.
Ouais, ouais. Alors, match. Très brièvement, donc, les principaux résultats. PSG Reims 1-1, 3 Lens 1-1, Marseille-Monaco 1-1. C'était le score du jour.
C'est ça, les trois premiers, voilà, qui font 1-1.
Et ça, ça a été un beau match.
Oui, oui, oui.
Marseille-Monaco, oui. Ça a été un beau match.
Et Marseille et Lens qui sont menés et qui reviennent, ouais. Qui reviennent à 1-1.
Lorient qui a gagné donc devant Rennes 2-1. Et puis donc,
ça, c'est étonnant.
Ouais. Ouais.
Cette équipe de Lorient, moi, elle m'étonne parce qu'elle est dans le haut de tableau depuis le début, mais elle ne baisse pas. Elle arrive toujours, même quand elle baisse d'un cran, elle réussit à battre.
Elle arrive à
battre Rennes, c'est quand même pas mal.
Oui,
hein.
Bah oui.
Mais c'est surtout la mauvaise opération de Rennes qui avait battu le
Rennes. Rennes n'est pas bon, bien sûr. Bien sûr.
Il serait montré quatrième. Hein. Aucun du top 5 n'a gagné.
Oui, mais Eladji nous avait prévenu à propos. Eladji nous avait prévenu à propos de Rennes. Quand tu perds des joueurs comme Terrier, c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué. Et après, là, ils ont remplacé par Toko Ekambi, mais Toko Ekambi aussi, il faut qu'ils prennent le temps de se mettre dans le rythme. Mais Rennes, c'était prévisible avec la perte de Terrier.
Et donc là, c'est Ajaccio qui a été battu à domicile par Lyon 2-0.
C'est ça, en fin de victoire pour les Lyonnais. C'est coup-ci, coup-ça, ça gagne, ça perd, ça gagne. Tant mieux pour eux, ils ont pris les 3 points, c'était important. Il y a eu cette altercation en fin de match là. Mais c'est toujours chaud entre les Corses et les Lyonnais. Il y a un passif entre les deux. Mais c'est content pour Lyon. Après, va falloir confirmer lors du match d'après. C'est toujours comme ça avec Lyon. Ça monte une marche et ça en descend deux.
Bon, après, moi, j'ai envie de dire que c'est toujours aussi inquiétant du côté de Lyon. Bon, après, là, parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont gagné 2-0. Ok, avec 2 tirs cadrés de tout le match, ils n'ont pas été dangereux, en fait ils ont été super efficaces parce que Ajaccio ont eu les occasions et Ajaccio, je sais pas comment ils ont fait pour ne même pas mettre un but, parce que je regardais le match, c'était vraiment aberrant, ils maîtrisaient tout le match, l'Ajaccio maîtrisait le match, ils mettaient de l'intensité qu'il fallait devant les cages, ils n'arrivaient pas à finir, ils n'arrivaient pas à cadrer leur tir, le gardien Lopez a sorti quelques parades, d'accord, mais ils se sont pris deux frappes cadrées, 2 buts. Ça a été aussi chirurgical, voilà, tout simplement. Mais sinon, Ajaccio ont fait un bon match et Lyon peine toujours. Mais Laurent Blanc l'avait dit, hein, même si on peine, du moment qu'on prend les 3 points, c'est le plus important. Ah oui. C'est ce qu'il a dit.
En tout cas, il y aura 2 journées de championnat donc, cette semaine. On va rappeler que PSG donc, 48 points, deuxième Lens 45, troisième Marseille 43, quatrième Monaco 38 et 5e Rennes 37. Et puis alors en bas du tableau, 16e Brest 18 points, 16e Brest 18 points, 17 Strasbourg et Ajaccio 15 points. 19e Auxerre 13 points et dernier donc bien décroché Angers 20e avec 8 points. Ça va être compliqué pour Angers.
Oh, ça va partir Angers.
Les carottes sont cuites.
Après pour le reste derrière, sachant Guy hein, qu'il y a 4 clubs qui descendent cette année. Hein.
Ah ben oui, parce qu'on va passer à 18. Hein. Mmh. On va passer à 18.
Justement, vous êtes pour un championnat à 18 clubs?
Ah oui, complètement.
Oui, pourquoi?
Complètement, parce qu'il vaut mieux. Il vaut mieux une élite resserré, oui. Parce que ça donne des matchs plus intenses et les équipes, par exemple les équipes européennes sont plus aguerries quand elles viennent en Coupe d'Europe si elles ont des matchs difficiles à disputer en championnat. Ce qu'on a reproché jusqu'à maintenant au PSG, c'est disputer des matchs trop faciles et quand ils arrivent devant des grosses équipes, ils sont un peu démunis. Ils sont un peu démunis. Ça, c'est un peu l'expérience qui veut que plus vous vous battez contre une équipe forte, et plus après vous avez les reins solides contre des équipes étrangères. Voilà.
Lyon, c'était aussi un peu ça du temps de l'As. Hein. On leur reprochait qu'il n'y avait pas d'opposition.
Voilà,
ce qui fait que Lyon, ils avaient du mal à franchir un cap souvent.
Cette année, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'il y a 2 équipes qui peuvent leur tenir la dragée haute, c'est Lens et Marseille. Marseille, bon, d'accord, ils ont perdu un point contre Monaco, mais c'est quand même Monaco, hein. C'est pas n'importe qui. Bon, mais Marseille joue très bien cette année. Tudor, qui a été très critiqué en début de saison, est en train de trouver le style qu'il fallait à l'OM. Il a acquis tout le public du Vélodrome avec lui, alors qu'il était critiqué au départ. Il a réussi à donner un style à l'OM, et l'OM carbure bien. Oui. Voilà. Lens, c'est un épiphénomène, mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Quand on voit ce public, une ville qui fait 40 000 habitants et qui fait 45 000 spectateurs presque à tous les matchs, c'est incroyable.
Et puis c'est un fabuleux public, bon. Il y a de l'ambiance à Lens.
Et ils ont trouvé un entraîneur qui, pour moi, est une révélation. Francaise. D'abord, c'est un très bon tacticien, un très bon technicien. Et puis bon, il a du bon matériel aussi, il faut reconnaître.
Mais en parlant d'entraîneurs, quand même, faut rendre grâce aux entraîneurs là, qui sont dans le championnat de France. Hein. Il y a Franck Hez, il y a celui de Lorient dont le nom m'échappe. Il y a Will Steele à Reims aussi.
Ah ouais, le petit de Reims.
Will Steele, 30 ans seulement, c'est 30 ans, il n'a jamais fait de foot connu, de sa vie. Et c'est un entraîneur qui sort de la formation, etc. Un passionné de Football Manager et qui arrive, qui est invaincu depuis le mois de septembre. Reims est invaincu depuis le mois de septembre. Moi, quand j'ai entendu cette stat et que j'ai vu le classement de Reims, je me suis dit, mais c'est étonnant, depuis septembre, les mecs, ils n'ont pas perdu. Pourtant, au classement, ils sont en milieu de tableau. Ouais. Quoi.
Mais il est très, très fort sur le plan tactique.
Sur le plan tactique, sur le plan humain, on a vu là Prime Video qui ont fait une immersion lors d'un entraînement. On voit comment ils parlent à ces joueurs. Ben, ils parlent comme à des gens de son âge parce que, en plus, à Reims, c'est le plus âgé. Dans l'effectif, il n'y a que Younes Abdelhamid, le capitaine, qui est plus âgé que lui. Sinon, il est plus âgé que tous les autres joueurs. Et comment il leur parle, c'est comme s'ils étaient amis. Ouais. Et ça se passe formidablement bien. On espère que ça va continuer comme ça pour Reims.
Mmh. Juliette, qu'est-ce que tu en penses? Il y aura match entre les trois, PSG, Lens, Marseille.
Oui, bien sûr, le match va être long toute la saison. Ouais. Mmh. Mais je pense que Lens peut vraiment bien revenir et pourquoi pas côtoyer le PSG de près, parce que Paris, avec la Ligue des Champions, va être pas mal pris. Ouais. Et surtout s'ils font des matchs comme ce week-end, ça va être compliqué pour Paris.
Pour revenir sur le championnat à 18, moi je suis pas forcément pour. Pour moi, la Ligue 1, on est 20. S'il y a déjà ça en Bundesliga, et je pense pas que le Bayern, Leipzig, Fribourg ou quoi ont vraiment une hausse de niveau. Pour moi, voilà, j'aimais bien les deux qui sortent, les deux qui montent. Ça enlève un peu de. Un peu de.
C'est sûr que ça fait
dynamique.
4 droits télé en moins, 4 journées de droits télé en moins, ça c'est sûr.
Moi je pense qu'à 18, à 18, les matchs sont quand même plus resserrés au niveau qualité, quoi.
Oui, parce qu'il y aura plus de temps de récupération en plus. Hein.
Déjà, le calendrier sera moins.
Oui, mais vous savez, mais après, vous savez très bien, Guillaume, on donne ici, on reprend de l'autre côté. Si on leur enlève des matchs ici, on va leur rajouter des matchs de l'autre côté. Ça va pas changer grand chose. Ouais. Moi, je pense que c'est les petits clubs qui sont peinés dans ce truc-là. Je ne pense pas que ça va changer grand chose. Le PSG va toujours jouer le haut de tableau et va toujours avoir du mal avec 2-3 équipes. Sinon, le reste, ça ne va pas changer grand chose. Malgré qu'on soit 18 ou 20, tu vois. Moi, je pense juste que les petites équipes inférieures qui sont même en Ligue 2, en National, etc., je pense juste pour eux que ça va être plus difficile. On voit des exploits toute l'année, on voit des exploits, etc. Voilà. Le championnat allemand est très intéressant, je le regarde souvent, voilà. Il est très intéressant, mais bon, quand je le vois, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a 18 équipes, quoi. J'ai l'impression que c'est un championnat comme les autres, vraiment.
Après, la Ligue 2 en France, c'est probablement une des meilleures secondes divisions en Europe.
Je suis tout à fait d'accord.
Et y a un très beau niveau. En Bundesliga, les 18e étaient vraiment largués. Donc la deuxième division allemande, je pense, est bien plus faible que la deuxième division française.
Après, c'est une décision qui a été soumise au vote. Hein. Les clubs professionnels ont voté, ils ont choisi de passer.
On a déjà connu ça, après on est repassé à 20 et on repasse à 18.
Ils ont décidé de passer à 18. Après, ils ont déjà enlevé la Coupe de la Ligue, là ils nous enlèvent 4 journées de championnat.
Ça laisse un peu plus de temps de récupération.
Ouais, mais comme il l'a dit, là, c'est pour nous rajouter d'autres choses. Hein. On voit la FIFA, ils ont toujours des idées farfelues, toujours des compétitions venues de je ne sais où qui veulent nous rajouter. Donc ouais, pourquoi pas après.
Allez, on va rappeler les huitièmes de finale de Coupe de France, parce que la semaine dernière, on apprenait en direct qu'il y aurait un Marseille-Paris-Saint-Germain, donc le 8 février, mais auparavant, il y aura Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Vierzon-Grenoble, Auxerre-Rodez, Paris-FC-Annecy. Bah oui, Paris-FC, ils vont peut-être jouer la Coupe. Hein. Au départ, quand on les avait vus aux Ulysses, ils nous disaient que ce n'était pas dans leur objectif, mais finalement, ils vont peut-être le faire. Angers-Nantes et Lorient-Lens, voilà.
C'est ça, bah avec le gros
avant,
choc.
Avant, naturellement, le gros choc Marseille.
Marseille-Paris-Saint-Germain, qui va être le gros choc de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Ça va être un match super intéressant, c'est un match excitant pour les deux équipes. Et pour Guy, tout à l'heure, il parlait de Tudor. C'est vrai qu'il était critiqué au début à Marseille. Et là, il revient très bien. Et même dans sa gestion des hommes contre Monaco, à la mi-temps, ça se passe super mal. Première mi-temps, t'es super dominé. Guendouzi fait un match infâme. Il décide de le sortir à la mi-temps. Guendouzi, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Bah, y a pas de souci. Je te sors à la mi-temps parce que sur ce match-là, t'es mauvais. Et je change. Et c'est peut-être cette différence qu'il y a entre le PSG aujourd'hui et l'OM, où à l'OM, t'as plus de facilité à faire sortir tes meilleurs joueurs que pour le PSG, comme hier. Par exemple, quand Verratti il sort, malheureusement, il n'y a aucun des trois devant qui sort, alors qu'il devrait faire sortir un offensif.
Excuse-moi, Abou.
Mais il ne peut pas le faire à cause de la politique
Abou,
du club.
Excuse-moi, Abou.
Je t'excuse, Eladj.
C'est Guendouzi. On parle quand même de Guendouzi.
Mais c'est le meilleur joueur du club.
On parle quand même de Guendouzi.
Mais c'est un des meilleurs joueurs du club.
Tu vois, le nom de Guendouzi, tu ne peux même pas l'aligner à côté de Neymar, Messi ou Mbappé.
Mais
encore moins.
Mais
tu devrais pouvoir les faire sortir. Excuse-moi, on dit pas le contraire, il n'y a pas de problème. Mais là, en tout cas, tu me dis Marseille truc, c'est pas la même du tout. Hier, Guendouzi, il a été pourri, il a été nul à chier. Hier, les trois fantastiques, entre guillemets, ils ont pas été nuls à chier.
Ouais, mais fallait en faire sortir un quand même. À partir du moment où tu prends un rouge.
Pas obligatoirement. Il y avait Marco Soler. Soler, il sert à rien. Soler, et j'ai envie de te dire, même Soler, ça se tape avec Guendouzi. Là, tu peux dire Soler.
Ouais, mais sur les trois, il y a plus de contact. T'es déjà à 10, plus t'as 3 devant.
Tu ne peux pas sortir.
Tu sais qu'ils vont pas redescendre défendre.
Il a fait sortir forcément Neymar ou pas? Neymar est sorti.
Trop tard.
Non, pour moi, pas trop tard. Parce qu'il faisait les efforts défensifs. Hier,
mais c'est Neymar, c'est le seul qui défend, justement, dans les trios.
Mais il était KO, c'est le seul qui défend. Il était vraiment KO. Même quand Neymar est sorti, Neymar, il a dit « Je suis vraiment fatigué ». Il disait « Il est KO ». Tu vois, il disait qu'il était carbo.
Ouais, mais
quand il est sorti,
il le fait trop tard, ce changement-là.
Pour moi,
il le fait trop tard.
Et après, je l'ai dit, c'est pas la même politique de club. Moi, j'ai envie de te dire, ils ont... à bout, ils ont fait une meilleure seconde mi-temps que la première.
Mais après, c'est ce que je te dis aussi, c'est pas la même politique de club. À Paris, c'est plus compliqué de sortir certains joueurs, et je le reproche pas à Galtier.
Oui,
c'est pas la même politique de club. Pochettino a eu les mêmes problèmes, Tuchel a eu les mêmes problèmes, Laurent Blanc à son époque a eu les mêmes problèmes.
Je pense qu'avec Ibra, c'était pareil.
Emery aussi, c'est la politique
de club. Tudor, il arrive à Paris, je pense que c'est la même chose. Il aura pas les mêmes.
Ah, mais forcément.
Comme là, en tout cas, sur les trois statuts E3, tu peux pas dire parce qu'il a fait sortir Guendouzi, parce qu'il est nul, et que de l'autre côté.
C'est plus profond que ça. Il arrive au début, il met pas Payet titulaire et il l'assume clairement. Il y a une position quand même du coach, même si ça reste que Payet, Guendouzi, ils n'ont pas le niveau de Neymar, Messi, c'est quand même des joueurs au niveau de l'OM qui ont une importance et qui ont une incidence dans le club. Et pourtant, il a dit non, Payet, tu joues pas. Guendouzi, il s'entendait pas au début, bah c'est pas grave. Et au fur et à mesure, ça marche. La preuve, aujourd'hui, son équipe, elle est 3e de Ligue 1. Ça se passe très bien pour lui. Et il titille la 2e place. Et voir pas pourquoi la première d'ici la fin du championnat. Donc, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce que même moi, j'ai été critique envers Tudor à son arrivée.
Oui, je tiens à préciser. Merci à vous de le tenir quand même. Parce que vous l'avez tous critiqué à son arrivée.
Oui, on l'a critiqué à son arrivée. Parce que Marseille, c'est aussi un club exigeant. Et qu'on voyait un coach
mais il est de même nulle part
qu'on connaît. Oui, mais qu'on connaît pas, forcément. Quand tu passes de Sampaoli que tu as connu avec qui finalement ça se passait bien et qu'on te dit ouais mais il y a un gars qui arrive qui s'appelle Tudor et tous les matchs de préparation se passent mal, on connaît les Marseillais et leur sang chaud qui monte rapidement. Après, le temps leur a donné tort et c'est une bonne chose. On est très content pour Tudor et on espère que ça va durer longtemps. En tout cas, son équipe de Marseille joue comme celle de l'Hellas Vérone qui était déjà une très bonne équipe. Je l'avais dit, je sais pas si tu te souviens la dernière, Philippe, que l'Hellas Vérone de Tudor ressemblait au jeu de transition de Julien Stéphan et de Bruno Genesio à Rennes. Ouais. Et il est exactement en train d'appliquer la même méthode et ça marche à merveille.
Allez, la Ligue 2, donc match nul entre Amiens et Le Havre 1-1. Bordeaux qui va gagner à Dijon 3-0. Saint-Etienne, on en parlait la semaine dernière avec Eladji, à nouveau battu, donc 3-2 à domicile par Sochaux. Et puis Quevilly-Rouen, PFC, donc 3-1 pour Quevilly-Rouen. Donc Le Havre, par contre, largement en tête hein, en Ligue 2 avec 43 points. Devant Bordeaux, 2e 36, 3e Sochaux 33, 4e Metz 32. Donc on voit que c'est très serré. Le Paris FC est en milieu de tableau, donc 11e avec Guingamp, 27 points. Et puis en bas de tableau, donc 16e Dijon, 21 points. 17 Rodez et Nîmes, 19 points. 19e Saint-Etienne, 18 points. Et 20e Niort, 17 points. Et malgré tout, on a le sentiment que mathématiquement, les Verts peuvent encore s'en tirer.
Et moi, je pense même qu'ils vont s'en tirer parce que le match contre Sochaux, je ne sais pas si tu as vu le match, ils perdent 1-0, ils reviennent à 2-1. Ouais. Ah, ils perdent ce match 3-2, c'est compliqué. Tu te dis, waouh. Et Sochaux, ça reste quand même la 3e meilleure équipe de Ligue 2 cette saison. Et sur le papier, je dirais même que ça se joue avec Bordeaux pour être la 2e meilleure équipe. Mais moi, j'étais pas d'accord avec Eladji il y a 2 semaines, mais je pense que Saint-Etienne, ils vont s'en sortir.
Ouais. Guy, nous qui avons connu l'épopée des Verts.
Ouais. Hélas, quand on voit ce qui se passe maintenant, effectivement, bon, on va pas aller chercher les responsabilités des uns et des autres, ça sert à rien.
Ouais.
Maintenant, il faut que le club se.
Mais ils peuvent quand même s'en tirer, ils ont eu moins 3 points finalement. Bon,
non, ils peuvent encore s'en tirer.
18 points, ils ont que 3 points de retard sur le 16e qui est Dijon. Hein. Ça fait un match.
C'est qu'ils n'ont pas, pas un effectif très très qualitatif, quoi, faut reconnaître, quoi.
Ils commencent à recruter des jeunes petites recrues, mais moi, comme je le disais depuis un moment, Saint-Etienne vont se maintenir et Saint-Etienne, j'y crois encore.
C'est possible.
Voilà, là, ils se sont fait prendre 2 buts à la 89e et 93e minute. Ça n'était pas arrivé depuis 2003. Avec la compétition en Ligue 1 et Ligue 2 confondues, ça n'était pas arrivé depuis 2003 que les Verts perdent un match, en tout cas dans le temps additionnel, dans la fin du temps réglementaire, comme ça. Voilà. Mmh. Et hier, ils ont fait un bon match. C'est dommage, ils ont craqué vers la fin. Ils se sont pris 2 buts. Voilà, c'est des choses, ça arrive, maintenant il faut que le mental y va et il faut qu'il continue.
Et Charbonnier leur fait énormément de bien, c'est une recrue qu'ils ont pris cet hiver.
C'est une très bonne
recrue. Ouais, Charbonnier leur fait énormément de bien, c'est un connaisseur de la Ligue 2 et tant mieux pour les Verts.
Et Le Havre, c'est bien parce que
en plus, c'est plus le ancien club.
C'est le club moyen.
Ouais. C'est ce que Thierry Henry disait.
C'est le premier club qui a été créé, le HAC.
Très bon club formateur, le Havre.
Très grand club formateur. Bon, et là, ils sont...
Ils survolent la Ligue 2 pour l'instant.
Un super championnat.
Ouais. Après, derrière, ça va être très serré. Hein. Voilà. Allez, le National, puisqu'on a fini la journée qui avait été entamée la semaine dernière avec le nul entre le Versailles et puis le Puy 1-1. Tiens, Jean-Luc Arébar n'est plus depuis Noël. Hein,
il a quitté
à Versailles. Il a quitté Versailles, oui. Et puis Cholet a battu Martigues 2-0. Donc Versailles reste quand même en tête avec 33 points. Devant Martigues, 2e, 32. 3e, le Restart, 31. Donc là, on voit aussi que c'est très, très serré. Et 4e, Concarneau et Dunkerque, 30 points. Et puis en bas de tableau, le Puy, 15e avec Saint-Brieuc, 17 points. 17e, et avant-dernier, le Paris Atlético 13, 16 points, et 18e, Borgo 13 points.
Ouais, Paris 13 Atlético, ouais. Là, qui va se déplacer, qui va recevoir Villefranche là, le 3 cette semaine. Mmh. Et j'ai regardé, par curiosité, j'ai regardé le classement de Chambly. Mmh. Chambly, ils sont 7 ou 8e de leur championnat national 2. Chambly, dont le coach est Fabien Valéry.
Oui,
j'ai
oui.
envie de me dire juste une chose. Fallait pas vous ouais, quitter, messieurs. Ouais, ouais. Fallait le Paris 13 Atlético en national, Fabien Valéry avec. Là, je regarde, je parcours le Facebook du Paris 13 Atlético. Tous les jours, une recrue. Tous les jours, une recrue. Ça va chercher à Pau, ça va chercher des anciens joueurs professionnels, des joueurs qui n'ont pas réussi à exploser au haut niveau, mais qui ont joué quand même 2 ou 3 matchs en Ligue 2. Et moi, je pense qu'il y a trop de recrutement dans ce club. Ils ont fait pareil cet été, parce que c'est le plus petit budget de National. Ouais. Ils ont fait pareil cet été, mais je pense qu'il y a trop de recrutement. Les mecs, ils n'arrivent pas à se... Il n'y a pas d'automatisme qui est créé. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on se maintienne. Et j'ai très peur pour eux.
Guy, deux clubs à Paris, ça serait bien. En Ligue 1, bon, en plus, on a l'Atlético qui est derrière. Hein. Ça fait 3 clubs à peu près dans la capitale. Mais c'est vrai que si on avait deux clubs en Ligue 1, ça serait bien.
Ce qui serait bien, c'est le Paris FC
et
le Red Star.
Oui, Red Star, qui n'est pas moins non plus.
C'est anormal qu'une capitale comme Paris n'ait pas au moins 2 clubs professionnels. Quand vous voyez qu'Ajaccio, à un moment donné, ils en avaient 2.
Ouais.
Ajaccio, le Gazélec.
Oui, qui vient de disparaître.
Et le Gazélec, qui vient de disparaître.
De rire, quoi. Et qu'on n'arrive pas à avoir 2 clubs professionnels à Paris, en Ligue 1, je ne parle pas. Professionnels, on les a, mais...
Mais le Red Star, ils peuvent le faire.
Abdoubaye,
on s'est beaucoup moqué de lui. Et on disait, ouais, très très bon journaliste, ça va donner quoi en coach. Mais Abdoubaye, pour moi, le Red Star, ça peut le faire. Parce qu'Abdoubaye, on se moquait beaucoup de lui. Ouais, très beau, la belle mèche, le mec, il rend bien, tout ça. Mais ce que ça va donner sur un terrain de foot, pour l'instant, ça donne bien.
Après Versailles, il y aurait un problème de stade. Ouais. Il joue à Jean-Bouin, il partage ça avec le Stade français de rugby. On en parlait la semaine dernière avec la personne du rugby. Il y aura un problème de stade. Alors, il n'y avait pas de championnat féminin donc ce week-end. On va enchaîner directement sur les championnats étrangers. Donc, en Angleterre, toujours Arsenal, 50 points en tête, même si c'était un week-end de coupe, devant Manchester City, 45.
Voilà, c'est ça, ce week-end il y a eu ça. Mais il y avait la FL Cup, je pense, Manchester City ont joué contre Arsenal et ils ont perdu 1-0.
Mm-hmm.
Ils ont perdu 1-0, bon, c'était un peu des équipes un peu remaniées, etc. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai vu que quelques.
C'était un week-end de coupe.
Week-end de coupe.
Allez, Espagne, il y avait, on est arrivé à la 19e journée, on en parlait tout à l'heure, hein, Barcelone en tête avec 47 points devant le Real 42. Donc le. Ouais, le Barça qui reprend un tout petit peu de l'Est et d'avance.
Pourtant, il paraît que le. Enfin, il paraît.
Ouais.
Moi, j'ai vu 2 matchs cette saison, mais je trouve qu'ils n'ont pas, un style de jeu très brillant quoi, par rapport à ce qu'on voyait avant. Quoi.
Ah oui,
c'est ça, le Barcelone.
Ouais.
Le Barça.
Mais
ils arrivent à gagner. En fait, c'est leur défense. Je sais pas, je comprends pas. Ter Stegen est dans une forme olympique.
Ouais.
Et je comprends pas parce que la saison dernière, tous les jours, il y avait les 2 équipes marques. Tu mettais les 2 équipes marques quand tu jouais côté pronostic. Ça rentrait à chaque fois. Ouais. Voilà, parce qu'ils se prenaient à chaque fois, ils encaissaient à chaque fois un but. Cette année, ils n'arrivent pas à encaisser de but. Ils gagnent leur match. C'est la 3e fois consécutive ou la 4e qu'ils gagnent 1-0, 1-0, 1-0. Et à chaque fois, c'est les dernières parades de Ter Stegen qui les sauvent. C'est incroyable. Mais après, attention, parce que moi, je pense que voilà, tout le monde voit maintenant un boulevard devant le Barça. Attention, il y a un match retour avec le Real de Madrid. Et il faut savoir aussi que le Real Madrid avait 5 points d'avance cette saison sur le Barcelone et ils les ont perdus. Aujourd'hui, maintenant, le Barça, ils ont 5 points de plus. Et le Barça, ils font pas un jeu... Voilà, avec la blessure d'Ousmane Dembélé quand même, qui est un élément très majeur parce qu'il est en très grande forme.
C'est très embêtant. Plusieurs fois.
Soit c'était soit lui, soit c'était Lewandowski. Du coup, bon, là, Lewandowski, il a plus de carton rouge. Du coup, prochain match, ils pourront le réavoir, mais ils ont plus Ousmane Dembélé. Je pense que ça va créer un petit déséquilibre. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive contre Manchester United. Manchester United qui sont dans une forme olympique. Voilà, ça va être compliqué de tenir ces points encore là.
Alors en Allemagne, eh bien, on a attaqué la 18e journée. Hein, et là, ça s'est resserré. Hein, le Bayern de Munich, premier 37, deuxième l'Union de Berlin 36, troisième Leipzig 35 et quatrième Dortmund et Fribourg 34.
Dortmund qui revient très bien.
Là, c'est très serré. Hein.
Oui, avec le retour à la compétition de Sébastien Ler, qu'on est très heureux de revoir sur les terrains de foot. Hein, lui qui était, à qui on avait diagnostiqué un cancer des testicules, qui est là, qui est de retour. On est très content et qui est performant. En plus, c'est pas juste qu'il est de retour pour être de retour, il est performant. Le Bayern, c'est compliqué. Il n'y a que des 1-1 là, depuis la reprise. 1-1, bon, d'accord. Mais Je suis pas inquiet pour le Bayern, je pense que ça va finir champion, mais attention parce que derrière ça carbure quand même. Leipzig, c'est une très belle équipe à voir jouer. Rose, il fait vraiment de très belles choses avec le club. Et Dortmund, pareil, c'est une équipe là qui revient bien. Mais maintenant à voir, parce que souvent en Allemagne, même quand ça se resserre, bah, il y a 2-3 journées où le Bayern reprend de son ascendant, et dans les confrontations directes surtout. Et moi, je vois le Bayern finir tout de même champion, quoi qu'il arrive.
Mmh. Allez, en Italie, donc 20e journée. Bon, bah, la Naples survole les débats. 53 points en tête devant l'Inter de Milan, donc 40 points.
C'est ça, avec Osimhen qui a encore marqué un superbe but ce week-end. Moi, ce qui m'inquiète en Italie, c'est la Juventus. On leur enlève 15 points. Moi, la semaine dernière, je pensais qu'on allait leur rendre leurs 15 points. Ouais. Mais si on ne leur rend pas leurs 15 points, plus ça continue comme ça, il y a même Massimiliano Allegri qui parle de « c'est fini, quoi, on regarde plus devant, on regarde ce qui se passe derrière quand même ». Ça devient inquiétant et je comprends pas pourquoi la Juventus n'a toujours pas pris la décision de licencier ce coach. C'est un monsieur qui fait du mal au football. Je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète cette semaine. Cet homme-là fait du mal au football.
Donc à un moment donné, il faut un électrochoc. Excuse-moi, bah, sur quel point il fait du mal au football selon
toi? Mais à tous les niveaux, au niveau du jeu, quand tu regardes la Juventus jouer, c'est épouvantable. Contre Monza, là, c'est horrible.
Ah non, non, contre Monza, ok, tu peux dire c'est horrible. Mais même avant, ils ont enchaîné quand même 6-7 matchs. Le jeu n'était pas fameux, mais ils avaient encaissé 0 but et ils gagnaient tous leurs matchs.
Oui, et on a vu le résultat.
7 matchs consécutifs, 7 victoires.
Oui, et on a vu le résultat derrière. Ça en prend 4, 3. En 2 matchs, je crois, ils avaient pris 7 ou 8 buts. On a vu le résultat derrière.
En 3 matchs, ils en ont pris 10.
Et on voit le résultat
en
derrière.
Trois matchs, ils en ont pris 10.
Et même quand ça gagne 1-0, mais cette Juventus-là, on ne peut pas, en tout cas pour moi, apprécier le football et défendre Massimiliano Allegri et penser que c'est normal ce qu'il fait dans le monde
défends
du football.
Pas. Moi, je ne le défends pas. J'étais le premier à le dire. Voilà, il se fout un peu de la gueule de tout le monde quand il arrive. Je n'aime pas les entraînements, je préfère les matchs. Moi, je veux jouer que des matchs, etc. Il ne veut pas travailler sa tactique, etc. Tu vois, voilà. Mais après, moi, j'ai envie de te dire, ça ressemble beaucoup au jeu italien aussi, dans le sens où ça défend plus, ils jouent plus sur la défense que sur l'offensif.
Mais Naples, t'as vu Naples cette saison, c'est Milan, pas pareil. L'année dernière,
c'est pas pareil.
Moi, Gasperini, ce qu'il faisait avec l'Atalanta.
Moi, le club qui m'inquiète là depuis la fin de la Coupe du Monde, moi vraiment, c'est le Milan.
Le Milan AC.
C'est le Milan AC.
Ouais, là, qui vient aussi d'en prendre 5 contre Sassuolo.
5-2 contre Sassuolo. Juste avant, ils en prennent 4 encore. Juste avant. Là, c'est l'AC Milan qui
pauvre
me voit.
Olivier Giroud.
Vraiment. Pauvre Olivier Giroud.
Qui a enfin trouvé
le chemin des filets.
En ce qui concerne la Juventus.
Oui, c'est un club qui a souvent eu des problèmes. Guy,
je pense qu'Allegri a peut-être des responsabilités. Mais ce n'est pas tellement au niveau d'Allegri. Hein. Je pense que c'est au niveau.
Il y a souvent eu des problèmes.
Bah, le board a démissionné.
Agnelli est bien gentil, mais d'avoir mis dans la tête cette histoire de Super League et d'avoir mis toute son énergie sur cette histoire, ce projet qui est mort-né. Alors au lieu de s'occuper de son équipe, il aurait peut-être mieux fait de rebâtir une Juventus comme on l'a connue avant. Quoi. En plus, ils prennent 15 points dans la vue, on ne se relève pas là. On ne se relève pas. Regardez Saint-Etienne, avec 5 points de pénalité, j'arrive pas à décoller. 15 points.
L'Europe, je pense qu'on peut oublier l'Europe cette saison. En tout cas, s'ils récupèrent pas leurs 15 points, je pense qu'on pourra.
Je pense qu'on va avoir maintenant pour le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane Desenclos finir ce chapitre foot de cette semaine. Stéphane, bonsoir. Et puis il y a le bonsoir de quelqu'un que vous connaissez bien.
Ouais, de Guy. Bah, je suis content parce que le foot, il est entre connaisseurs pour une fois sur ce plateau.
mais c'est qui sont pas les connaisseurs? Tu vises qui?
Il y a que des connaisseurs.
Je sais pas si mes amis ont tous regardé le match du PSG hier, par exemple.
Ah, oui, oui.
Ils vont continuer à dire donc que c'est Neymar qui est nul de nul et qui
est déjà.
Pas trop, non.
D'accord,
Stéphane. C'est bien ce que je pensais. C'est moi, j'ai dit ça. Que Neymar se foutait de la gueule du PSG hier.
En tout cas, moi, je fais mon coup de gueule, mon coup de cœur, et ça reste. C'est quand même un coup de gueule, quand même, le match d'hier. Donc Philippe. Figurez-vous qu'il va falloir se secouer.
C'est
la réponse de Christophe Galtier après le nouveau match laborieux du PSG hier face à Reims. Tu m'étonnes qu'il va falloir se secouer. Depuis le retour de la Coupe du Monde, écoutez ça, le club de la capitale et ses stars n'ont pris que 7 points sur les 15 mis en jeu. 7 points, ça met nos amis parisiens à la 10e place du classement post-Coupe du Monde, derrière des équipes comme Nice, Nantes ou Toulouse. Moi, je trouve ça tout simplement honteux. Alors oui, il va falloir se secouer et à tous les niveaux. Et puis aussi, petit message peut-être perso, arrêtez de faire porter le chapeau toujours au même. La semaine dernière, par exemple, j'entendais, je disais, partout sur les grandes radios que tout ou presque était de la faute de Neymar. Et oui, il se fout de la gueule du monde, comme vient de le dire notre ami. Eh bien, manque de chance face à Reims, le Brésilien, il a sans doute été le meilleur joueur du PSG sur le terrain, inscrivant au passage son 12e but de la saison en Ligue 1.
Ça, j'en suis aussi moins sûr, Stéphane, par contre.
Il a aussi pour info 10 passes décisives. Je peux vous garantir qu'avec 11 Neymar sur le terrain hier, vous ne faites pas un match nul contre Reims, même à 10 contre 11. Ah non, je me trompe, je suis bête. C'est Lionel Messi le problème, finalement. Ben moi, je propose à Christophe Galtier de se fendre d'un petit coup de fil à Scaloni pour savoir comment on fait pour gagner la Coupe du Monde avec le sextuple Ballon d'Or. Bref, bon, allez, on passe à autre chose. Il n'y a pas quand même que le PSG dans la vie. Donc, je voudrais lancer, en revanche, un grand coup de cœur pour le match OM-Monaco samedi soir.
On va parler, ouais.
Ça a été quand même un véritable régal. Un match vivant avec deux équipes qui se rendaient coup sur coup. Bien sûr, des erreurs des deux côtés, hein, mais c'est le propre du football. Et un coach à Marseille capable de voir à la mi-temps ce qui ne va pas pour le rectifier et apporter une plus-value à son équipe. Bon, c'est pas non plus quand même un dieu, le Tudor. Moi aussi, j'avais vu qu'il fallait sortir Guendouzi à la mi-temps. Mais il y a parfois des trucs simples à voir, aussi gros que le nœud au milieu de la figure. Enfin, pas forcément, visiblement, au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce match entre l'OM et Monaco peut clairement servir de pub à la Ligue 1. Vous allez me sortir alors tout de suite l'histoire du pénalty non sifflé pour cet attentat sur Kolasinac. Alors d'abord, je ne pense pas qu'il y a obligatoirement pénalty. Je ne dis pas qu'il n'y a pas pénalty. Je ne pense pas que c'est une obligation, car le ballon était quand même très loin quand il y a eu la faute. Et surtout, je pense que Longoria et notre ami Tudor, ils ont tort de réduire le match à cet acte-là. D'ailleurs, au passage, bravo aux qualités d'acteur de Longoria, hein, juste devant les caméras, dans le couloir du Vélodrome. Ça, c'est, je ne sais pas s'ils révisent ça le soir, mais c'est en tout cas bien joué. Il ne faut pas réduire le match à ce fait de jeu, parce qu'ils doivent, par exemple, se dire, hein, sur le chipoté, qu'une VAR parfaite aurait peut-être pu donner un carton rouge à Rongier pour sa faute sur Ben Seguir quelques minutes plus tôt, et que même si on y regarde, on dit qu'un peu plus tôt dans l'action, il y a une faute très probable de Balerdi qui peut être sifflée. Bref, ça sera un débat sans fin. Le match de nul, il est finalement logique. Le match, il était beau. Je trouve inutile. C'est vraiment un coup de là. Par contre, c'est un coup de gueule dans le coup de cœur. C'est inutile de vouloir toujours parler de l'arbitrage. C'est une mode qui, franchement, moi, me fatigue, quoi. Réduire, par exemple, ce match à ça, c'est fatigant. Sinon, l'actu, là, tout de suite, c'est au moment où on se parle, c'est le mercato. Alors, quelques bons coups déjà sont réussis par des clubs de Ligue 1, comme Eldin Ounahi, justement, à l'OM, Florent Mollet, Andy Delors à Nantes, où on peut parler aussi du transfert de Thomasson à Lens. C'est des bons coups. Alors, l'OM et l'OL, notamment, devraient encore bouger d'ici la clôture du mercato, hein, du marché. C'est demain à minuit, demain soir à minuit. Et le PSG aussi, enfin, peut-être. D'ailleurs, Christophe Galtier, il réclame du renfort en attaque. Et bah oui, il n'a pas assez d'attaquants, le pauvre Christophe Galtier, pour remplacer Pablo Sarabia. Mais ce qui finalement est peut-être le plus inquiétant à 15 jours de la réception du Bayern, parce que ça pourrait nous renforcer dans l'idée que le coach du PSG est incapable de trouver des solutions tout seul aux problèmes de son équipe.
Très bien. Voilà. Stéphane, merci. Puis ben, on l'a dit, deux journées de championnat, donc une actu foot qui va s'accentuer, hein, dans les prochaines semaines. Hein.
Ah ouais, avec deux classicos, ouais, voilà. Deux à mois de février de fou, avec deux classicos dans lesquels tout peut arriver. Hein, Paris peut faire le titre et la Coupe de France au Vélodrome, comme il peut aussi gagner les deux.
Ouais. J'avais une petite question, Stéphane, dis-moi, t'es pour la venue de Malcolm ?
Moi, largement, ouais, tout à fait. Ouais.
T'as vu Malcolm jouer au foot ? Non, mais attends, sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce que t'as vu Malcolm jouer au football ? Ouais, après, les supporters parisiens, je vous vois pleurer toute la journée. Je vous jure, là, si on va chercher Malcolm, Stéphane, je veux pas devoir le critiquer après. Clairement, parce que je l'ai vu jouer, je sais de quoi il est capable, que ça soit au Barcelone ou au Zénith de Saint-Pétersbourg. J'aurais préféré garder Sarabia que jouer avec Malcolm. Hein. Sérieusement.
Peut-être tort. Il a mis 15 buts, peut-être, par je sais pas combien. Je crois qu'il a mis beaucoup de buts cette saison, quand même. Des passes décisives, des buts. Peut-être que c'est qu'on le laisse faire, je sais pas. Moi, je l'ai vu jouer. Certainement moins que toi. Certainement moins souvent que toi, probablement. Mais je l'ai vu jouer. Et je trouve que c'est un bon joueur. Et surtout un joueur, en tout cas, un ailier, un attaquant qui peut. On parle du jeune Bakayoko aussi, l'histoire belge et européenne.
c'est quand même l'avenir. Hein.
Voilà, pour ça, moi, c'était moi, je faisais revenir, sans que ça soit miraculeux, je faisais venir Moïse Kean. Je faisais tout pour que
Moïse Kean revienne. Mais il aurait jamais dû partir, même.
Des joueurs qui peuvent rentrer vite dans le match. Ouais. Non, Sarabia, il peut apporter des choses, mais pas en tout cas au poste, je pense pas. Je sais pas. En tout cas, cette saison, malheureusement, au PSG, il a strictement rien apporté. Mais c'est quand même. Non, ce qui est quand même fou, quand même, quoi. Mais je sais pas si on se rend bien compte, quoi. C'est que hier, tout le monde, je pense, qui regardait le match, attendait que Galtier sorte un de ses attaquants. Je pense que hier, celui à sortir, c'était quand même Messi, puisque Neymar, il défendait, Mbappé représentait quand même une possibilité de contre à 10 contre 11 qui n'était pas négligeable, d'ailleurs on l'a vu, et il n'y a rien qui se passe, rien du tout, et puis après il a le culot de dire qu'il faut un attaquant. Je veux dire, bon, si tu avais un attaquant, je comprends pas cette façon. De toute façon, les joueurs du PSG, on parle de Malcolm, on parle des autres, moi c'est vrai que là je suis un peu, je sais pas, Guy, je sais que Guy il aime bien le Paris Saint-Germain également, qui entend ça, moi je suis un peu... je sais plus quoi. Un joueur, il vient au PSG, tu peux prendre le meilleur du monde, il va devenir nul. Quoi. Il va devenir nul. Alors le mieux, c'est peut-être d'en prendre effectivement, peut-être un.
C'est le contexte et l'environnement, sûrement.
Moi, j'ai trouvé quelque chose de paradoxal hier dans ce match, dans la fin du match. Bon, à 10, le PSG a mieux joué qu'en première période. Ils ont même dominé. Bon, ils ont le match en main. Ils acculent les Rémois enfin sur leur but. Ils mènent 1-0. Ils ont 3 points en jouant mal. Comment se fait-il qu'une équipe avec des gars qui sont tous expérimentés, des internationaux dans leur pays, comment ils font pour dégarnir la défense et se faire piéger à la dernière seconde quand on a une expérience pareille? Qu'on m'explique. Je ne comprends pas.
Ce qui est très bizarre, c'est... Si tu regardes, alors loin bien sûr l'idée de l'incriminer, mais si tu regardes l'action une fois, deux fois, cinq fois, tu verras que c'est une énorme erreur du petit jeune là qui est rentré. Mais on peut effectivement absolument pas l'incriminer pour ça, non. Mais le faire rentrer à 5 minutes de la fin.
J'étais à un moment où justement les Rémois étaient en train de déjouer.
Et, exactement. Alors,
c'est pas là qu'il faut se faire piéger quand même.
Le coaching, il est complètement foireux. Où tu le fais rentrer tout de suite après la sortie après l'expulsion de Verratti, en disant ça s'était très bien passé, comme tu fais rentrer Sanchez qui a été pas trop mal. Et je pense de toute façon que Paris a besoin d'un joueur, celui qui est complètement à la ramasse aussi. Bref, on peut en parler pendant 100 ans. Hein. Actuellement, c'est Vitinha, c'est une première mi-temps catastrophique, cataclysmique, et qu'on voit quand Verratti y rentre, tout ce qu'il apporte. Sanchez a apporté aussi un peu dans Zola. Bon, maintenant, il a mis le jeune là, qui soi-disant peut débuter en Ligue des Champions et tout, le faire rentrer 5 minutes à la fin. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Comment je comprends pas. Moi, j'adore, vous le savez ici, tous ceux qui sont là, que j'adore Lionel Messi. Mais là, franchement, un match comme ça, c'est Messi qu'il fallait sortir, quoi. Il fallait sortir à une demi-heure ou à 20 minutes de la fin pour garder un passeur qui défendait, qui était quand même Neymar, qui pour moi était très bon.
Ouais, mais tu es en train de négocier une prolongation de Messi. Et
voilà, ouais.
Et voilà, tu es coincé. Tu le sens pas. Tu peux pas le sortir.
Et voilà, mais bien sûr. Donc c'est pour ça, c'est bien ce que je dis. Il y a des plein de raisons extrasportives qui font que. Vas-y, bon, après, il y a quand même une énorme erreur. Moi, je ne peux pas penser qu'on incrimine trop les Parisiens qui se sont dégarnis, quoi, les, notamment la défense centrale, puisque ça perce en plein milieu de la défense. Le mec, il fait quand même une passe et c'est le mec qui lance quasiment l'attaquant. Rémois, donc bon, il y a quand même cette erreur qui arrive, hein, que moi je surtout pas incriminer Zaïre Emery, qui est un très très bon joueur, mais je pense qu'il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt dans le match pour se mettre dans le match, et puis même quitte à faire une erreur à 20 minutes de la fin, c'est toujours mieux que de la faire à la 96e minute.
Et puis même donc, derrière, il y a quand même des mecs comme Ramos et Marquinhos, si Warren Zaïre fait une erreur, derrière ils doivent peut-être là, les deux là.
Oui, on peut penser ça. Oui, non, mais il y a une suite d'erreurs. Et voilà, maintenant on peut. Ce qui est grave, ce que je trouve qui est affligeant, qui m'énerve, moi, j'ai pas été ceux qui sont autour de la table et qui écoutent régulièrement savent aussi que je suis très loin d'être un très loin, puis là vous l'avez compris je pense à travers la chronique, très très loin d'être un fan de Christophe Galtier, et je suis super super inquiet quoi. Quand après ça on dit il faut se secouer, j'ai besoin, il nous faut absolument un attaquant pour le mec, t'as les trois meilleurs, on va dire potentiellement les trois meilleurs attaquants, trois des dix meilleurs attaquants du monde quoi, je veux dire, et t'as le culot de réclamer un attaquant. À la limite, il dirait il faut absolument un d'ailleurs peut-être qu'est-ce qu'il pense et qu'il n'ose pas le dire. Hein. Bah, il faut absolument un défenseur central qui tienne la route ou je ne sais pas quoi.
Ça veut dire que ce n'est pas la peine de prendre les critiquer. Hein.
Bah voilà, ouais.
Si tu cherches un attaquant, alors qu'il y en a un à côté. Bon, moi je crois la grosse erreur du PSG, c'est pas d'avoir pu garder Moïse Kean, parce que lui, il s'était adapté tout de suite. Et alors une entente avec Mbappé qui était incroyable, il aurait dû faire un effort, le PSG aurait dû faire l'effort de refaire venir
Moïse Kean. Il était super cher. Ah,
c'était 30 millions, c'est pas beaucoup pour les Qataris, 30.
En moment,
ouais, mais il était
30 pour les Qataris, c'est un mal à bord.
Pas à l'époque.
C'est moins cher que Paredes.
Bah oui, 30 millions, c'est pas beaucoup pour le niveau de Moïse Kean, franchement.
C'était Leonardo, je pense, c'était Leonardo. Hein. Leonardo, il a pas fait du bien.
Il a fait
des trucs bien, mais il a pas fait du bien. Maintenant, effectivement, mais là pourquoi on n'essaye pas de. J'ai entendu, moi, des rumeurs que l'OM essayait de l'avoir en prêt ou des trucs comme ça, parce que la Juve, ils sont quand même très, très, très mal, la Juve, là, en ce moment. Donc, je parle financièrement, autant d'ailleurs sportivement, mais surtout financièrement. Donc, il aurait peut-être fallu essayer de faire le forcing, j'en sais rien et tout, le mec il connaît la maison, il est opérationnel tout de suite.
On peut récupérer Milik et vous le prêter si vous voulez, Stéphane.
Non mais Milik c'est un bon joueur, hein. Milik c'est un bon joueur, hein. c'est un très bon joueur Milik, mais ils prendront jamais parce qu'il fera comment Galtier. Neymar, Messi, Mbappé, Milik, les quatre en même temps, ce sera peut-être un peu compliqué quand même, quoi, tu vois.
Oui.
Maintenant, Milik, pourquoi pas, en mettant Milik dans l'axe avec je ne sais pas, je ne suis pas entraîneur du PSG, mais en tout cas,
ça va aller, Stéphane, hein, t'inquiète, la saison est longue encore.
Ça va le faire.
Ah, mais ce qui me rassure en tant que coach, que supporter du PSG, je pense avoir montré quand même mon honnêteté dans cette chronique. Ce qui me rassure, c'est que le Bayern, ils sont pas mieux. Hein.
Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et tous les grands clubs européens. Voilà.
Voilà. Ouais. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci Stéphane. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Voilà.
Guy, je t'embrasse. Voilà. Et puis
salut, Steph.
Et Philippe. Oui. Pas le taxi quand même ce coup-ci. Hein.
Non, il n'y a pas de problème.
Allez.
Il n'y aura pas de problème.
Allez,
bonne soirée. Salut. Voilà. Donc pour le coup de cœur, coup de gueule. Toujours aussi ferme de notre ami Stéphane Dezenclos. On écoute un petit peu de musique, Guy. Stan Getz, hein, The Girl from Ipanema.
Au hasard, oui.
Tiens. Allez, on y va.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. When she passes, it runs.
C'est sympa, Guy, hein, ce genre de musique. Hein.
Très bien.
C'est voilà. Vraiment magnifique.
Très bien. Alors, justement, Guy, vous êtes notre invité. Le sport, il entre comment dans votre vie?
On répète.
Le sport, comment entre-t-il dans votre vie? Comment entre-t-il dans votre vie?
Le sport dans ma vie?
Oui, oui.
Ah ben, le sport dans ma vie...
Je me doute.
Ça va chercher loin.
Ah ben, justement.
Parce que j'avais 8 ans. J'avais un père qui était ingénieur. Des ponts et chaussées en Algérie,
oui.
Et qui était en même temps gardien de but. Qui a été un gardien de but quand même costaud, deux fois champion d'Algérie de football, avec un club qui s'appelait le GS Orléansville.
D'accord.
Qui maintenant ne s'appelle plus Orléansville, puisqu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Bon. Et mon père était gardien de but, un très bon gardien de but, qui a même failli être international en 1936 militaire, puisque l'équipe de France militaire devait aller jouer contre l'Espagne militaire. Et quand ils sont arrivés au port d'Alicante, on leur a dit non, non, retournez. La guerre d'Espagne venait d'éclater. La guerre civile éclatait en Espagne. Donc le match n'a jamais eu lieu et mon père n'a jamais été gardien de but. D'accord. International. Bon,
d'accord.
Bref. Mais quand il a arrêté de jouer et que j'ai grandi, à 8-10 ans, il m'en est avec lui. Voir les jeunes du club qu'il avait remplacé. Quoi. Et j'ai vu plusieurs matchs de championnat là-bas. Et quand je rentrais chez moi, je prenais un cahier et j'écrivais le compte-rendu du match. Et à l'âge de 8 ans, je me suis dit, un jour, ben, je ferai journaliste de sport.
Bon. Voilà, c'est comme ça.
Mais bon, la vie,
après,
étant ce qu'elle est,
bien sûr.
Tu ne sais jamais que ça va t'arriver. Mm-hmm. Quand je suis rentré à Paris, j'ai fait mes études à la Sorbonne. J'étais plutôt littéraire, donc j'étais plus attiré par l'écriture. Donc j'ai fait mes études à la Sorbonne, après j'ai fait du droit. J'étais pion dans un lycée, il fallait bien gagner sa vie. Mm-hmm. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un rédacteur en chef du Parisien, qui s'appelait à l'époque le Parisien Libéré.
Oui, c'était,
Je
ne
savais pas ce qui m'attendait, mais au Parisien, à l'époque, il y avait deux rédactions. Il y avait la rédaction nationale, où là, il y avait tous les cadors de la presse, hein, tous les grands journalistes étaient dans la rédaction nationale. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient des éditions départementales. Une édition de l'Oise, une édition de Seine-et-Marne. Et le rédacteur en chef que j'ai vu, c'était celui de la départementale, qui s'appelait Georges Pagnou.
Ah oui,
bien connu. Il était un grand journaliste.
Oui, Georges Pagnou, bien connu. Il voilà. Y a eu Dominique après son fils. Ouais,
et
ouais.
Son fils, ah, Dominique, ouais. Est un grand photographe. Ouais, ouais. Donc, M. Pagnou me reçoit, il me demande que je lui montre ce que j'écris. Alors, j'écrivais pour moi. Hein. Mm-hmm. Je n'avais pas écrit dans un canard. Et il m'a dit, vous voulez devenir journaliste? Je dis oui. Il me dit, vous voulez faire un match ce week-end? Ouf, un match ce week-end? Ah ben oui, alors, oui, ça m'intéresse. Et allez voir le monsieur qui est à côté. Je vais voir le monsieur
comme
qui est
ça
à côté. Qui me dit, tu veux être journaliste? Oui. Eh ben, tu veux faire un match ce week-end? Prends une feuille dans la case. une feuille dans la case. Quand j'ai lu ce qu'il y avait marqué dessus, j'ai failli tomber de ma chaise. Parce que moi qui avais écrit, pour moi, sur des France-Hongrie, des Saint-Étienne-Bordeaux, des grands matchs comme ça, je me retrouve avec un papier, il y avait marqué Ferrières en Brie contre la police de Meaux.
Voilà.
32e de finale de Coupe de Seine-et-Marne. Alors moi j'étais là, j'étais blanc. Blanc parce que je ne sais pas ce que c'était, quoi. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Ah, comment ça, c'est quoi? Tu veux être journaliste ou pas? Je dis, ben oui, 90 lignes pour dimanche. 90 lignes pour dimanche, bon. Je sors du bureau avec mon papier, et un autre jeune qui est à côté de moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais ce week-end, toi? Ben, on m'envoie faire un match. Ah bon? Je dis, Ferrières-en-Brie contre la police de Meaux. Et le mec, mort de rire, etc., quoi. Je dis, arrête de moquer, pourquoi? Il dit, mais tu sais comment on va? On y va, là-bas? Je dis, non, je sais pas. Il faut aller prendre les cars verts à la Bastille. Les cars verts à la Bastille, pour moi, c'est une aventure. Hein. Ouais. Tu prends les cars verts, il y a un car vert qui va t'amener à Ferrières. Et me voilà parti le dimanche à l'aventure dans un car qui m'amène à Ferrières-en-Brie. Il pleuvait gros comme le poing, je ne trouve pas le stade. Ça commence bien. Hein. Et finalement, j'arrive au stade après avoir cherché. Le match avait commencé depuis un quart d'heure.
Ouf, en plus.
Je regarde le match en arrivant dans l'allée. Tous les joueurs étaient en marron.
Ouf.
Parce qu'il pleuvait, comme ouais. C'était pas un terrain gazonné. C'était de la boue partout. Donc tous les joueurs étaient marrons. Alors pour les reconnaître, bonjour. Et heureusement, il y a un entraîneur qui vient me voir, qui me dit, c'est toi le Parisien? Je dis oui. Tu viens avec moi. Bon. Il m'amène dans une sorte de guérite, où il y avait l'entraîneur adverse et lui. Il me dit, tu vas rester là, et nous on va t'expliquer. Mmh, parce que tu ne connais pas les joueurs,
ouais,
et tu ne peux pas les reconnaître.
Sympa.
Bon, et m'ont tout expliqué. Un tel qui passe à un tel, celui-là qui fait la passe à l'autre, l'autre qui attaque les machins, le défenseur qui s'appelle comme ça, le milieu de terrain c'est celui-là. Et je rentre à Paris, et j'ai fait mes 90 lignes. Et c'est passé dans le journal... Le lendemain,
quelle fierté.
Il y avait 90 lignes dans le journal.
Hein?
Ça a été mon premier match.
Ouais.
Et après, bon, pendant un an et demi, deux ans, j'ai fait que des matchs de banlieue.
Oui, parce qu'à l'époque, on commençait comme ça, il faut dire, en jeune journaliste. Hein.
Ouais. Vu que je n'ai pas fait d'école de journalisme.
Oui, oui, bah à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'école. Hein. Il n'y avait pas d'école même.
Le métier sur le tas.
Comme beaucoup. Comme
et à l'époque, le Parisien, à l'époque, était une école de journalisme. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes.
C'était l'antichambre un peu de l'équipe.
C'était l'antichambre de l'équipe.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y avait Félix Lévitant qui était le patron des sports, etc. Et j'ai appris le métier comme ça en faisant les premiers matchs de banlieue. Puis après, bon, bien sûr, ça a évolué.
Alors après, il y a le Parisien. Et après,
Parisien. Après Parisien, j'ai été aussi. Parce qu'entre le Parisien et l'agence France Presse, j'ai participé à la création. Du petit format. Vous savez que le Parisien, avant, c'était un grand format qui s'appelait le Parisien Libéré.
Libéré oui. Bon.
Et un jour, la direction avait décidé de réduire le format du Parisien et de le faire comme il est maintenant.
Oui, oui. Et comme elle formait l'équipe maintenant. Voilà.
Et un des rédacteurs en chef du Parisien m'a demandé si je voulais faire partie de la création de la maquette. Je trouve bon, c'était pas trop mon truc. Quoi. Moi, je préférais le terrain.
Oui,
bon.
Oui.
Mais je l'ai fait quand même. Et on a créé le petit format. Bon. Et je suis content parce que je fais partie de l'équipe qui a créé le petit format quand même. Mais bon, moi, il fallait que je retourne au terrain, etc. Donc, entre le Parisien et l'AFP, j'ai eu une période où j'ai été un peu ce qu'on appelle maintenant un freelance. C'est-à-dire que je faisais des piges à droite, à gauche, etc. Et un jour, est arrivée l'opportunité de rentrer à l'AFP. Et pour moi, l'AFP, ça a été révélation.
Oui. Avec votre révélation. Maître. Avec votre
parce que dans une agence, on apprend vraiment le métier de journaliste.
Tout.
Dans une agence, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron au sport.
C'est votre maître.
Qui s'appelait Charles Biétry.
Ah, ouais.
Et pour moi, ça a été un maître, pour moi, quoi. Et ça a été non seulement un maître, mais j'ai... un ami également, quoi. Mmh. J'ai appris le métier à l'AFP. Grâce à l'AFP, j'ai fait des Coupes du Monde. Oui. J'en ai fait... En tout, j'en aurais fait 6. Entre l'AFP et l'équipe, j'ai fait 6 Coupes du Monde. Celle de 78, j'étais freelance. J'étais pas encore à l'AFP. 82, j'étais en Espagne, chef de mission. 86, j'étais au Mexique, chef de mission également. Et après, je suis rentré à l'équipe à Francfort. Mmh. Et là, j'ai fait 90 l'Italie.
84, la moins belle Coupe du Monde d'Italie.
La moins belle.
Oh oui.
94 aux États-Unis, mmh. où il n'y avait pas la France.
Oui.
Puis 98 en France, où Platini est venu me voir. J'étais rentré entre-temps à la Ligue de football professionnel.
Mmh. Oui. On va reparler
comme directeur de la, voilà. Ah ouais. Comme directeur de la communication. Et Platini est venu me voir à la Ligue. Et il a demandé à mon patron s'il pouvait me détacher pendant 6 semaines dans l'organisation.
Ah, vous avez travaillé avec, la, avec chef, Gérard Hernault voilà, à la Coupe du Monde, oui.
Voilà, ouais. Chef des informations.
D'accord.
Et j'ai été nommé chef des informations de la Coupe du Monde 98 mmh. pendant 6 semaines.
Ouais.
Après, je suis retourné à la Ligue. Ouais.
Professionnellement, ça reste le plus beau souvenir.
Voilà.
Ça reste le plus beau souvenir professionnellement.
Ah, celle de 98,
ouais,
ah oui,
le mondial, naturellement.
Forcément,
bien sûr.
Forcément.
Bien sûr.
En plus, comme j'étais très intime avec Michel Platini, ça a quand même facilité les choses, quoi.
Oui, bien sûr. Et après, donc, vous quittez effectivement, j'allais dire, pas le journalisme complètement, mais enfin, on passe de l'autre côté de la barrière ben, en étant directeur de la com de la LFP.
Moi, j'avais fait un peu le tour au niveau journaliste. J'avais fait un peu le tour de tout ce qui était reportage. Bon, j'avais touché à plein de sports parce que quand on est à l'AFP, on ne fait pas qu'un seul sport. Moi, j'ai fait la boxe.
Surtout avec Bietri. Hein.
Ouais, avec Bietri, bien entendu.
Il faut toucher à tous les sports. Hein.
J'ai même touché à la Formule 1 une fois. Alors, bon. On fait plusieurs sports. Mais quand même, quand je suis sorti de l'AEP, j'avais envie de voir comment était organisé le sport de l'autre côté. Mmh. Et du côté des coulisses. Des coulisses des organisateurs.
Ouais.
Bon. Ça m'a permis de voir comment était organisé le sport en France et notamment le football. Quoi. Et j'avoue que j'ai passé 10 ans extraordinaires à l'AFP, à la Ligue, parce que là, j'ai vu vraiment comment on organisait un championnat, quelles étaient les commissions qui géraient un peu l'administration, la juridique, la discipline, l'organisation de la compétition. Ça, c'est très important. Et c'était très intéressant, quoi, voilà.
Donc vous travaillez en concertation avec les journalistes, hein. Ça aide aussi
absolument.
Hein, d'être de l'autre côté de la barrière.
Ouais, mais j'ai continué à écrire quand même parce que j'ai créé un magazine.
À l'intérieur de l'AFP, oui.
Qui n'existait pas. Mm. Donc j'ai créé ce magazine et j'ai créé le site internet officiel de l'ALFP.
Oui.
Donc j'étais à l'origine de cette création, ce qui m'a permis de rester quand même journaliste. D'ailleurs, je n'ai jamais perdu ma carte de presse.
D'accord. Alors, il y a naturellement la Ligue de foot professionnel. Vous avez connu combien de présidents ? Président Bourgoin ?
J'ai connu.
Président Le Graët et président
Thierrier,
non ? Le
premier, c'était Le Graët.
C'était Le Graët.
Bon.
Ouais. Ah oui, après Bourgoin.
Il y a quelques soucis.
Oui. Mais alors justement, on en parlait. Ça paraît complètement fou, ça paraît complètement sidérant. Pourtant, vous l'avez connu et c'est quelqu'un
j'ai bien connu.
De très compétent. Hein.
Très compétent, très grand dirigeant.
Ah oui. On va rappeler qu'il a été maire de Guingamp, chef d'entreprise, président de Guingamp, président de la Ligue, et maintenant...
Maire de Guingamp.
Oui.
Bon, écoutez. Donc, il y a eu le président Le Graët, avec lequel je suis rentré à la Ligue. Après, il a été battu en 2000 par Gérard Bourgoin.
Duc de Bourgogne.
Le marchand de poulet, duc de Bourgogne, qui n'est resté que 2 ans à la tête de la Ligue. Parce qu'à un moment donné, même le conseil d'administration... Et le dernier président que j'ai connu, c'était Frédéric Thirier.
Ouais.
Avocat à la Cour de cassation, membre du conseil d'administration de la Ligue et du comité exécutif de la Fédération depuis une vingtaine d'années. Quoi. C'était quelqu'un du Sirail quand même. Hein.
Mmh.
Voilà.
Et avec la Fédé, quels étaient vos rapports ?
Avec la Fédé,
excellent
rapport avec la Fédé.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai même été nommé à un moment donné membre du Conseil national de l'éthique mm-hmm. avec Dominique Rocheteau comme président. Mm-hmm. Voilà. Donc je travaillais un peu avec la Fédé également.
De quoi vous êtes le plus fier à la Ligue de football professionnel?
C'est-à-dire
bah, l'action la plus, la plus fière que vous avez mise en place.
Oh, l'action que j'ai mise en place.
Aujourd'hui.
Je pense que c'est le magazine.
Oui, c'est le magazine.
Ouais. S'il n'y avait pas de magazine, oui, oui, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Avec le canard de la Fédé, oui. qui était en papier, mais il n'avait pas de magazine, jamais. Mm-hmm. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit c'est pas possible que la Ligue n'ait pas un magazine avec. Un championnat comme on a. Mm-hmm. Je crois que c'est ça a été mon œuvre. La plus intéressante a été de créer ça.
Voilà. Oui. Et dans le journalisme, donc à l'équipe, vous arrivez à vous revoir?
Ah oui, oui, bien sûr.
Les anciens, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Les bons copains.
Ouais, ouais. J'ai de très bons copains.
Ouais. Et qui est une bonne amie qui était avec nous. Hein.
Moi à l'AFP, parce que l'AFP, je suis parti.
Oui, puis bon.
Ouais. Les gens
si Charles Bietri, je crois que vous êtes encore en
Bietri a parti après, ouais, ouais. en 84, ouais, ouais, il a créé ouais,
pour Canal
Plus. Voilà. Mm-hmm.
Ah, oui. Et alors, comment ça se faisait à l'équipe parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le métier a changé. Comment ça se passait? On avait des relations entre les chefs de rubrique, entre les différentes rubriques, c'est-à-dire, on pouvait avoir des copains, si on était du foot, on pouvait avoir des copains au vélo.
Complètement. Ouais, ah, ouais, oui,
oui, c'était pas. Oui, oui, oui.
Non, non.
On n'est pas chacun sclérosé dans son domaine.
Non. Ouais. Pas du tout. Mm-hmm. Non. Alors, l'équipe, c'est quand même. Mm-hmm. C'est le vaisseau amiral.
Bien sûr.
De la maison Amaury. Bien sûr. Bon, ça a été un très grand journal.
Pourquoi ça a été un très grand? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en phase.
Non, c'est pas ça. Il y a des choses.
Ouais, ouais.
Il y a d'autres choses qui me plaisent moins.
Ouais.
Maintenant, parce que. Faut qu'on. On accorde beaucoup trop d'importance à la polémique et moins à l'information. Mmh. C'est ça qui me gêne un peu.
Oui. Bah oui.
Un journaliste d'aujourd'hui. Hein.
À bout. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque où Guy a commencé, on ne voyait pas autant de matchs à la télé. Donc, on achetait l'équipe essentiellement pour voir, pour avoir le résumé du match. Voilà. Alors que maintenant, bah, le match, on l'a vu, on l'a revu, on l'a décortiqué dans tous les sens, on l'a disséqué partout. Donc, comme on dit journalistiquement, il faut savoir donner un autre angle. Et donc, voilà.
Et bah, c'est la place aux polémiques.
Oui, bah oui.
Comme je crois qu'il y avait notamment l'affaire Benjamin Mendy, hein, qui avait un peu...
Oui.
On accordait trop de place justement à cette affaire-là dans l'équipe. Mais c'est vrai que c'est dommage que la ligne éditoriale ait changé avec le temps. Mais je pense qu'on est obligé aussi de s'adapter aux lecteurs et à ceux qui nous lisent.
Oui,
et aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est le buzz, c'est des trucs comme ça.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus acheter l'équipe pour voir le résumé du match. On l'a vu.
Oh bah oui, on l'a vu. On a les applications.
On voudrait trouver dans l'équipe le lendemain des explications techniques et tactiques.
Oui, mais on les a sur Internet avec des sites maintenant.
Et même sur le plateau, quoi, l'équipe du soir, tu regardes la chaîne L'Équipe, les explications techniques, tu les as à la seconde. Quoi. Il y a des émissions sportives, il y a le Canal Plus avec Canal Football Club.
C'est ça le problème.
Donc c'est devenu compliqué aussi de se faire de l'argent sur la presse écrite. Et malheureusement, ça passe par faire la promotion des polémiques.
Ouais. Vous êtes optimiste pour la presse écrite ou plutôt pessimiste? C'est l'Internet qui va carrément tout...
Moi, je pense que... C'est un besoin d'avoir du papier dans les mains.
Ouais.
C'est un besoin.
Notre génération, oui. Oui,
bien sûr, mais même.
Uh-huh. Ouais.
Non, je pense que je ne suis pas forcément pessimiste, mais il y a quand même une dérive. Il y a une dérive.
Oui, il y a une dérive. Okay. Juliette, quand tu entends des propos comme ça...
Nous, c'est sûr que même en école, maintenant, on privilégie plus la presse web que la presse écrite. Bah oui. Donc, c'est sûr que oui. Je pense que moins le jeune achète la presse écrite maintenant.
Antoine. Moi, je me vois moins à l'écrit. J'aime vivre à l'image en écoutant. Et puis c'est plus simple, quoi. On n'a pas il faut attendre le lendemain matin pour avoir son bout de papier. Hop, je clique sur la notification.
À l'époque c'était comme ça. Maintenant on a tout de suite, c'est ça.
Nous on a grandi là-dedans. Donc
nous on se battait, enfin c'est une façon de parler, pour aller acheter l'équipe le lendemain, pour qu'il y en ait encore dans les kiosques. Quoi.
Après il y a quand même le charme du papier.
On est une génération qui lit de moins en moins, et ça se ressent même à l'écrit. Hein. On est une génération qui lit de moins en moins, donc par défaut, écrit de moins en moins bien. Et d'ici 10, 15, 20, 25 ans, on sera remplacé par des par l'intelligence artificielle pardon, qui écrira des articles à notre place. Hein.
J'espère que non.
Ouais, enfin, bon. Peur, l'intelligence artificielle.
Ouais. Ça arrive vite.
Ouais. C'est pareil, les rapports entre les sportifs et puis les journalistes aujourd'hui, ils sont différents. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
Avant,
les journalistes,
on
voyage ensemble. Quoi.
Ah ouais. Moi, j'ai assisté, par exemple, à un titre du FC Nantes il y a quelques années, où j'ai terminé en boîte avec eux.
Bah oui, bah oui. Maintenant, c'est plus compliqué.
À une finale de Coupe des Champions, c'était à Barcelone, je crois. C'était le Milan AC qui venait de gagner 4-0. Mm-hmm. Pardon. En finale de la Ligue des Champions.
Ouais.
Avec mon collègue de l'AFP, on est descendu dans le vestiaire du Milan AC. On était assis dans la douche. Avec Ruud Gullit.
Ah ouais.
Ruud Gullit et Marco van Basten.
Ah ouais.
Tu peux plus faire ça maintenant.
Ah non, c'est possible.
Tu peux plus faire ça
c'est
maintenant.
C'est impossible. Ah ouais.
Et on a passé une heure dans la douche avec eux.
Ah ouais.
On peut plus faire ça maintenant.
Ah ouais. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Non, mais tu rigoles, mais.
C'est Juliette
c'est vrai
qui me fait rire.
Juliette aussi. Il y avait...
j'ai une petite anecdote.
Oui, ouais, vas-y, vas-y.
Si vous voilà. Ah,
c'est sûr.
Quand j'ai fait la Coupe du Monde 82 en Espagne, j'étais pas sur l'équipe de France, j'étais sur l'équipe d'Espagne. C'est comme je parlais espagnol, Biedry m'avait dit, tu t'occupes des Espagnols. C'est le pays organisateur. Donc il va y avoir beaucoup d'informations qui vont venir de Valence. C'est l'équipe d'Espagne était à Valence.
Mm-hmm.
Et j'arrive à l'hôtel des Espagnols, qui est un peu à l'écart de Valence. Et puis j'entends des bruits comme quoi les Espagnols ne veulent pas jouer le premier match contre le Honduras, premier match du groupe de l'Espagne. Chez eux, Coupe du Monde en Espagne, les joueurs espagnols ne veulent pas jouer. Et pourquoi ? Bon, je me pointe, j'étais le seul journaliste français. Je me pointe, j'écoute. Puis j'appelle un joueur qui s'appelle López Ufarte, qui jouait à la Real Sociedad. Je lui dis, viens, on revient. Il me dit, Ogui, comment ça se fait que tu es là? Ben, je lui dis, parce que je m'occupe de l'Espagne. Il me dit, tu vas avoir du travail parce qu'on ne va pas jouer contre le Honduras. Je lui dis, qu'est-ce que c'est cette connerie là? Vous allez faire ça à votre pays, à votre fédération. Vous organisez la Coupe du Monde et vous ne voulez pas. Non, parce qu'on a un gros problème avec les fédérations espagnoles au niveau des primes. Bon. Je lui dis, comment là? Mais pourquoi? Ben, il me dit, parce qu'ils ne veulent pas nous donner les primes auquel on a droit. Donc on a décidé qu'il n'y aurait pas de match. Quelle catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu es sûr de ça? Je peux téléphoner. Il me dit, oui, tu peux téléphoner, il n'y a pas de problème. Après, il me dit, viens voir, viens. Je dis quoi? Il dit, tu veux, je te donne quelque chose, un scoop? Je dis quoi? Il me dit, ce soir, tu te mets derrière la barrière qui est là-bas. Tu te caches dans le buisson qui est juste derrière là. Oui, alors, vers 11h30, minimum un quart. Ah bon? J'en ai parlé, j'étais absenté, j'en ai parlé à Juanito et à Arconada. Arconada, le gardien qui a fait après la toile.
Avec Petini, oui.
Bon. Et Arconada et Juanito, c'était un peu les caïds de l'équipe d'Espagne, quoi. Je lui dis, mais t'es sûr qu'ils vont venir me parler? Et je leur ai dit, je te promets que tu auras l'exclusivité de la réunion qui a lieu cette nuit avec la Fédé. Je lui ai dit, attends, mais moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais un scoop pareil sur l'équipe d'Espagne. Je rentre à l'hôtel, je dis à mon collègue de l'AFP, ce soir tu ne me vois pas, je prends la voiture et je retourne à l'hôtel des Espagnols. Je dis, mais tu y as été cet après-midi? T'inquiète pas,
elle veut pas dire,
j'ai quelque chose à faire, je suis en mission. J'arrive 11h30 le soir. Je me cache derrière le fameux buisson en question. Et je vois arriver Juanito et Arconada qui viennent me voir. Ils me disent, c'est vous l'agence France-Presse? Et je lui dis, oui, c'est moi. Je dis, bon, voilà, tout est réglé, on a obtenu ce qu'on a voulu, le match contre le Honduras aura lieu. Merci les gars, merci, merci. Je reprends la voiture. Bah je fonce à l'hôtel et je passe un urgent. Urgent, l'équipe d'Espagne a réglé les problèmes. Le match aura lieu, etc. Le lendemain, je retourne à l'hôtel des Espagnols. Tous les journalistes espagnols. Mais qu'est-ce qui se passe? Je les avais grillés.
Ah bah oui, oui, non,
j'avais été le seul à donner l'info.
Ouais.
Même l'agence EFE, qui est une grande agence espagnole, une grande agence même internationale, n'avait pas eu l'info. Et moi, je l'avais eu. Alors, je peux vous dire que...
Ah bah oui, on est content dans ces cas-là.
Comme ça,
bien sûr.
Dans une carrière, on est content. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et au moment de l'équipe, l'équipe France Football, c'était la même rédaction?
La même?
La même rédaction?
Oui.
Au début.
Il y avait interférence entre les journalistes déjà.
Ouais.
Après, il y a eu une petite séparation. Après. Mmh. Mais au début, il y avait les journalistes de l'équipe écrivaient dans France Foot. Mmh. Au contraire. Quoi.
Et la ligne éditoriale par rapport à une affaire qu'on a bien connue, Aimé Jacquet, l'affaire Jacquet en 98. Quelle était votre position?
C'est-à-dire que moi, j'y étais plus. Hein.
Oui.
J'y étais plus mais parce que je suis parti à la Ligue.
Mais je sais que l'équipe France Football n'était pas au même... C'est la même ligne.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils se sont pris ainsi à Aimé Jacquet. Parce que quand vous prenez quelqu'un en grippe de cette façon, parce qu'il avait raté les matchs de préparation, mais quand on voit ce que l'équipe de France a fait après, quand vous voyez qu'en demi-finale, il y a plus d'un million de personnes sur les Champs-Élysées, c'est quand même vos lecteurs. Alors vous dites, attendez, on continue à matraquer l'équipe de France et matraquer Jacquet alors qu'il va aller en finale avec un million de personnes dans les rues. Moi, j'avoue que j'ai pas compris.
Oui, parce que c'est l'homme qui a été attaqué. Ouais. C'est pas
et après, résultat,
le choix de jeu. Hein.
Résultat, on est champion du monde. Ouais. Et bon, il n'y a pas eu de mot d'excuse, il n'y a pas eu tout ça. Mais... Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Hein.
Oui.
Beaucoup de gens qui n'ont pas compris.
Bien sûr. Alors, il y a eu donc la presse écrite, et puis il y a eu aussi des bouquins de sport.
Oui, il y a eu
les
des
coupes d'Europe.
Les bouquins sur les coupes d'Europe.
Ouais. Ouais. Ça prend du temps d'écrire un livre.
Ça prend du temps.
Ouais.
Ouais, ben en fait, c'est un bouquin de statistiques.
Oui.
C'est un bouquin sur le. Quand l'UEFA a créé les coefficients pour classer les clubs en fonction de leur palmarès et des matchs qu'ils ont joués. Nous, on avait créé la même chose, mais en prenant toutes les Coupes d'Europe depuis 1956, mais alors épluché.
Énorme travail. Hein.
Épluché. Il y avait un gars qui travaillait avec moi sur le projet. Il allait dans le fin fond de Hongrie, dans un bled, pour aller dans la mairie, aller chercher le résultat du club hongrois. Et bon, ça nous a permis d'avoir un bouquin qui s'appelait Sans Coupe d'Europe.
Oui, ça s'appelait. Sans Coupe d'Europe.
Et qui est sorti juste après la Coupe du Monde de Marseille.
Voilà. Voilà. Et il y a eu la fameuse histoire des Coupes d'Europe.
Histoire de la Coupe d'Europe. C'est un bouquin que j'ai écrit
avec
Thierry Roland.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et on a fait 700 feuillets.
C'est vous qui avez écrit Il a écrit Thierry, pas trop.
Non, mais bon, avec Thierry, on s'entendait très très bien.
Oui.
Bon, et puis il me laissait carte blanche. C'est un garçon extraordinaire.
Oui. Et puis vous aviez une passion commune avec Thierry, c'est les courses hippiques.
Oui, aussi, après.
Il aimait autant les chevaux que le foot, Thierry, pratiquement.
J'ai pratiquement deux cascades, c'est bien simple.
Oui. Alors justement, il y avait le prix d'Amérique hier. Vous l'avez vécu, comme on dit. Hein, victoire de Bazir,
avec un grand bonhomme, c'est Jean-Michel Bazir.
Jean-Michel
Bazir.
Ouais. On a rarement vu un driver gagner autant.
C'est un pilote exceptionnel, c'est un entraîneur exceptionnel. Il n'y a rien à dire ce soir.
Alors, l'écriture, c'est aussi une passion, une habitude. Maintenant, vous continuez à écrire. Parce que, après, une fois en retraite, vous êtes sorti du sport.
Oui, non, mais j'ai continué à écrire tout le temps, j'ai tout le temps écrit. Et c'est un peu mon oxygène. Oui. Si j'écris pas, je suis malade.
Ah ouais.
Alors,
combien là, deux bouquins, je crois.
Hein. J'écris deux bouquins.
Ouais, c'est ça.
Puis j'écris aussi un roman autobiographique. Hein, que j'ai appelé le lion du shérif.
Ouais.
Parce que le shérif, c'était le fleuve qui coulait dans la ville où je suis né. et où mon père était gardien de but. En fait, le Lion, c'est un peu lui, quoi. Je raconte un peu sa vie et la mienne.
Ouais.
Et puis j'écris des polars aussi.
Ouais, ouais.
Tu vois, j'aime bien les romans policiers.
Ouais.
J'aime bien ça.
C'est Oker Berry sur lequel il a gagné Jean-Michel Bazir hier.
Très bon cheval.
Juliette, une question à notre ami Guy, là, quand on entend ça. Bon, c'est notre époque. Hein.
Pardon.
C'est notre époque.
Oui, c'est sûr que c'est une autre époque.
Ouais.
Maintenant, oui, c'est plus pareil.
Ouais, c'est plus pareil, ouais. Et toi, Antoine?
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore, pour le côté uniquement football, de l'avenir pour le papier, ou dans les prochaines années, ça va plutôt être que de la télé ou même
non,
la radio?
Non, je pense qu'il y a quand même, moyen. Il y a de l'avenir quand même, hein. Il y a de l'avenir quand même. Le seul truc que je dis dans ce métier, surtout dans le sport, il faut bien connaître le passé pour pouvoir parler du présent et de ce qui va se passer derrière. Mais il faut avoir cette base. Le passé dans le sport, c'est la base de tout. C'est le socle. Une fois que vous avez bien assimilé le côté historique du sport que vous traitez, après vous pouvez écrire ce que vous voulez derrière. Parce que vous avez votre base, vous avez des références, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein.
Mais c'est sûr que même à l'oral, c'est utile pour commenter, on rappelle des faits. Mais là, il faut se créer toute une culture, là.
Mais vous êtes dans quelle école, vous?
Moi, je suis en école de journalisme, là, en première année.
Mais à Paris?
Oui, à Paris, dans le 16e.
À l'EJ? L'EJ,
l'IEJ, ouais, c'est ça.
Bon, à bout, toi qui écris.
Non, moi, c'est à Nice, c'est l'EDJ.
Ah, l'EDJ, oui.
Abou, toi qui écris de temps à autre.
Ouais, non, mais c'est super passionnant d'écouter Guy parler. C'est en tout cas pour nous, jeunes journalistes, hein, je parle en mon nom et aussi, oui, je pense en nom des deux qui m'accompagnent ce soir. C'est passionnant de l'écouter et d'apprendre de ses réussites aussi, parce que c'est quelqu'un qui a réussi aujourd'hui et qui a fait de nombreuses choses. Et en plus, on voit qu'il est humble. Nous, on l'a connu pendant la Coupe du Monde et c'est quelqu'un de terriblement humble et c'est un plaisir de l'écouter parler à chaque fois.
Vous savez, dans ce métier de journaliste, il faut savoir une chose. On est d'abord journaliste. La spécialité qu'on prend après, c'est parce qu'elle nous plaît. Mmh. On a envie d'être journaliste de sport.
Ouais.
On a envie d'être journaliste de musique.
Ouais.
Moi, par exemple, j'ai failli être journaliste de jazz.
Ah bon?
J'adorais le jazz.
Ah bon?
Moi, j'adore le jazz.
Ouais.
Bon, c'est comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Ah bon?
Mais
ouais,
j'ai choisi le sport. Bon. Il y a une époque où dans les rédactions, le journaliste de sport, c'est le sous-journaliste.
Ah ouais, ouais.
Avec des personnes qui maintenant ont disparu, etc., nous avons créé l'Union des journalistes de sport de France.
Ouais, ouais.
Et on s'est battu pendant des années pour faire reconnaître la profession de journaliste sportif auprès des rédactions, pour leur faire comprendre qu'on est des journalistes comme les autres. Et peut-être mieux encore que les autres. Pourquoi? Je vais vous donner deux exemples. Quand il y a eu les Jeux Olympiques de Munich, Charles Bietri, qui était le chef des sports, qui n'était pas encore chef des sports.
Il a eu le scoop, hein, c'est lui.
Voilà.
Hein.
Ouais. Il n'était pas chef des sports. Ouais, ouais. Il était encore reporter. La nuit, il a très chaud. Il se met sur son balcon. Éclate la fusillade des Palestiniens qui tuent les athlètes israéliens. Lui, il est sur son balcon, il assiste à ce truc-là. Qu'est-ce qu'il fait? Urgent, puis raconte ce qui se passe. Eh bien, la rédaction en chef, avant d'accepter qu'il envoie son urgent, ils ont téléphoné au bureau de Bonn, en Allemagne, pour que les mecs vérifient que ce qui se passait à Munich, c'était bien ça. Mais c'est un scandale. Alors que le gars, il est sur son balcon, il voit tout. Tout ça parce que, pour eux, un journaliste de sport ne pourrait parler que de ballon. Il ne pourrait pas faire autre chose. Eh ben non, on a tous appris à faire autre chose.
Ouais.
Bon, je ne veux pas reparler de moi.
Il a fait le scoop après Bietri. Il a fait le scoop.
Bietri, il a fait des scoops.
Devant sa commando. Hein. Il a fait le
devant
coup,
sa commando. Il a été reconnu comme étant le gars qui a donné le scoop au monde entier.
Absolument. Mm-hmm.
Moi, je me suis retrouvé à Monaco pour un match de Coupe d'Europe, Monaco contre le CSKA Sofia. Et moi, quand je vais dans une ville où il y a des casinos, j'aime bien de temps en temps aller mettre des pièces dans les machines à sous. Bon, t'as de mes défauts.
Comme Thierry Roland.
Mais qui n'a pas de défauts. Bon. Et j'étais avec un journaliste de l'équipe qui s'appelait malheureusement, parce qu'il est décédé, il s'appelait Victor Ciné. Ah
ouais, le Corse.
Qui était un très bon journaliste de l'équipe. Et on partait ensemble, bon, on était au casino tous les deux. Et il me dit, tu as entendu ce que viennent dire les Italiens? Je dis quoi? Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la princesse Grace venait de se tuer en voiture. Il y avait sa fille qui conduisait. Ils sont rentrés dans un virage, ils l'ont loupé. Et la princesse Grace est morte. J'ai dit, arrête tes bêtises, attends. Il dit, je te dis que oui. Je demande aux Italiens, les Italiens pleuraient. Et puis, je sors dans la rue, je dis, si c'est ça, je ne peux pas rester là. Il faut que j'aille téléphoner. Et je vois que les magasins ferment déjà en signe de deuil et tout. Je dis, alors c'est vrai. Et je vais me renseigner. J'arrive à l'hôtel, je téléphone à Paris, je leur dis, il vient de se passer quelque chose de grave. Je monte tout de suite au palais. Alors j'arrive au palais. Alors le palais, il y a des marches. Hein. Et à l'époque, on n'avait pas de portable à l'époque. Je monte au palais. Je tombe sur des petites Anglaises qui pleuraient. Alors je fais une interview des Anglaises. Elles me racontent un peu un truc. Puis d'un seul coup, il y a une Mercedes noire qui sort du palais. La vitre s'ouvre. Et quelqu'un me dit, ah, bonsoir Guy. Qui c'était? Oui. Le docteur Campora.
Ah, oui.
Qui était le docteur Campora? C'était le médecin Monaco, d'après, ouais. Le médecin particulier de la principauté, mais aussi président de l'AS Monaco. Comment je le connaissais bien? Il a ouvert la vitre, il est venu me parler. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, docteur, pouvez-vous me dire un peu où on en est, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a un peu expliqué, il m'a pas tout donné dans le détail, mais j'avais de quoi faire un grand papier. Je rentre à l'hôtel et j'envoie un papier pour raconter l'accident de la princesse Grace. C'est un événement quand même.
Oui, bien sûr.
Eh bien à Paris, il fallait quitter les points à Nice pour demander à quelqu'un du bureau de Nice de venir à Monaco. Je dis, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Mm-hmm. Moi j'ai tout là, j'ai tout. J'ai même le médecin du prince qui me parle.
Ouais.
Eh bien, il a fallu se battre, mais c'est quand même mes papiers qui sont partis avant ce Nice. Parce que ce Nice, je les attendais encore. Et ouais. Bon. Ouais. Des exemples comme ça, il y en a plein. Quand il y a eu le printemps de Prague, un photographe de l'AFP, je crois qu'il s'appelait Jean-Pierre Tartra, qui est un très très grand photographe de sport. Il arrive à Prague pour couvrir les championnats du monde de cyclisme sur piste. Hein, bon, c'est pas bien. Les chars russes rentrent dans Prague. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un char. Et il commence à prendre des photos partout. Partout, des photos. Il a fait un malheur dans le monde entier. Il était le seul. Allez. Parce qu'il était parti avant tout le monde pour préparer un peu son boulot de reporter, quoi. Il tombe sur un événement pareil, et bien il a couvert l'événement. Il n'a pas attendu qu'on lui dise ce qu'il fallait faire. Il a fait un malheur. Dans tous les grands journaux du monde entier, il y avait ses photos à lui.
Ouais. Donc vous voyez ce qui peut vous arriver. Hein.
Comme quoi, un journaliste de sport peut être capable de faire autre chose quand il est confronté à un autre événement.
Bien sûr.
Voilà. Mm-hmm. Alors moi, j'avais dit un jour à un rédacteur en chef, je vous amène au foot, c'est vous qui allez faire le compte-rendu. Et il m'a dit, ah non, ça, je ne saurais pas faire.
Bah oui.
Ben voilà. Vous avez le résumé, là. Mm-hmm. Vous avez le résumé.
Bon, bah on va continuer le commentaire.
Désolé d'avoir tenu.
Non, mais c'est très bien, Guy. C'est très bien. C'est ça. T'es là pour ça. Hein. Donc voilà. Alors on va reparler maintenant sur le basket quand même. Hein. On va continuer donc à notre actu, mais cette fois-ci extra foot. 19e journée donc pour le Paris Basket qui a été battu à Dijon 99 à 88. Nanterre a aussi été battu à domicile 83-87 par le Portel et défaite aussi à domicile de Boulogne-Levallois devant Rouen, donc 84-102. Et puis le gros match, Villeurbanne-Monaco, 63-72, victoire de Monaco à Villeurbanne. Monaco qui est en tête avec 84,2% en tête, devant Boulogne-Levallois, 73,7%. Et Paris est en milieu de tableau, 11e avec Gravelines-Dunkerque, 42,1%. 15e Nanterre, 36,8%.
C'est ça, le Paris Basket qui est loin de la zone.
Toujours dans l'entre moi.
Mais loin de la zone de la relégation où ils étaient présents au début de championnat. Il y a Gauthier Denis hier qui met 13 points, mais ça suffit malheureusement pas pour eux pour remporter ce match contre Dijon. Dijon qui est une très bonne équipe, hein, comme tu l'as dit, Philippe, ils sont classés 4e quand même, juste derrière Cholet. Donc c'est une défaite pour le Paris Basket, mais je m'en fais pas. C'est rien d'alarmant.
Non, ils sont, je pense que c'est un petit peu comme le Paris FC, ils sont dans le ventre mou, donc voilà, ils finiront la saison en milieu de tableau.
Ouais, c'est ça, et c'est une équipe qui, on le rappelle, a été promue que l'an dernier. Hein. Avant ça, ils n'avaient jamais joué dans l'élite, donc c'est très honorable ce qu'ils font.
Ouais. Tiens, Guy, il faudra qu'on demande pourquoi il y a des classements de basket en pourcentage, on ne sait pas.
Ça non, plus.
Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, c'est... Voilà. Et puis en volley, 18e journée, le Paris volley a gagné à Poitiers 3-1. Dans le même temps, Plessis Robinson battu à Saint-Nazaire 3-1. Donc Tours en tête, 44 points. Là aussi, Paris est, j'allais dire, pratiquement dans le ventre mou. 8e avec Montpellier, 25 points. Et le Plessis Robinson, donc avant-dernier, 13e avec 13 points.
Ouais, mais une 8e place pardon, qui vous offre les qualifications en quart de finale.
Ouais, donc ça devrait.
Ouais, donc ça devrait le faire, on ne sait pas encore. Ils sont en égalité avec Montpellier, qui a un match de plus que Paris. Mais c'est une 8e place importante qui vous offre une qualification pour les playoffs. Donc ça devrait aller aussi pour le Paris Volley.
Alors, je voudrais qu'avec Antoine et puis donc Juliette, on revienne un peu aussi sur les gros faits marquants de ce beau et grand week-end de sport. On a parlé du Prix d'Amérique. Hein, ça fait plaisir donc à Guy, cette 5e victoire sur le Prix d'Amérique de Jean-Michel Bazire. Le handball, l'équipe de France, malheureusement, il n'y aura pas de 7e étoile, battue par le Danemark. Tout à fait normalement et logiquement. Hein, l'équipe de France a toujours couru pratiquement après le score, battu donc 34-29, c'est donc l'Espagne qui est troisième.
Ouais, c'est
et troisième victoire consécutive pour les Danois.
Ouais, s'ils ont fait un triplé historique, je crois que c'est la première fois qu'une équipe gagne autant de suite. C'est dommage, on a presque toujours couru derrière le score. Une fois, on est monté à 16 partout, un point à la mi-temps.
Ouais, on est revenu pas loin, il y avait un petit point, un petit but de retard à la mi-temps.
C'est
il y a
ça.
Eu un moment
16-15,
machule, mais bon, jamais en possibilité de pouvoir faire basculer cette équipe du Danemark.
Je pense qu'il a manqué la force de caractère des Karabatic. Lundin a été bon. Il a même bien été suppléé par son second. Il a sorti un péno important de Quentin Maillet à la fin. Dylan Nahi, l'ailier gauche que je trouve exceptionnel, a été dans le dur. Il a loupé beaucoup de face à face. Et les Danois, c'est un sport de handball. Ils ont été très bons. Hansen et son bandeau et son bras droit. Toujours aussi
vous
bon.
Vous avez eu le match, Guy, aussi non, ça vous intéresse aussi
Magnifique. Ce qui s'est passé avec l'équipe de France de handball, ça m'a rappelé ce qui s'est passé avec l'équipe de France.
Mais on perd les finales actuellement. Hein. C'est pas bon.
Ils ont raté complètement le début de.
C'est clair.
Quand j'ai vu l'écart qui se creusait, j'ai dit.
Très rapidement, on a été à moins 4.
Et après, ça a été dit difficile. C'est vrai qu'on est dans une mauvaise spirale. Hein. On perd les finales, le basket, le foot, le hand, là, en quelques mois.
On a perdu. Il vaut mieux perdre en finale.
Nos différentes finales. Hein. Oui, enfin, bon.
C'est pas catastrophique.
Non, c'est pas catastrophique non plus.
C'est quand même
mais
des finales.
Ouais. Hein. Et puis en tennis, 22e tournoi d'un grand chelem pour Djokovic, le Serbe, qui a battu en 3-7 Tsitsipas, 3-6, 7-6, 7-6.
Et il égale Rafael Nadal, absolument. 22e grand chelem.
Et 10e victoire à Melbourne.
En Australie, j'ai très, très déçu de Tsitsipas, qui dès le début a perdu le combat physique. Je pense que dans la tête, quand il y a Djokovic, en plus à Melbourne, c'est compliqué. Mais il n'a pas tenu deux fois au tie-break. Quand tu perds au deuxième set, je pense que ça fait mal. Et le troisième set était le plus accroché, j'ai trouvé, dans le jeu. Il y avait plus de combats, mais le grec a encore perdu. Donc, ce sera encore un des trois.
Juliette
Il a été inhibé devant Djokovic.
Ouais.
Ah.
Il...
Pourtant, il est costaud quand même.
Il est costaud, mais il l'a regardé jouer à la fin.
Bah oui. Ouais. Juliette, t'as vu le match, non? Tu t'es levé tôt pour Melbourne?
Non, j'ai pas vu le match, non. Mais ça, c'est pas étonnant, je trouve, que Djokovic gagne, parce que c'est quand même un très grand. Et par rapport à Tsitsipas, je trouve qu'il y a moins...
Bah, il y a encore un petit...
Il y a un gros écart encore.
Moi, j'ai passé le pire dimanche de ma vie. Enfin, alors là, franchement, mais les mecs, ils arrivent en finale, ils jouent pas. Philippe, c'est pas possible quand t'arrives en finale. Non, mais quand t'arrives en finale, tu joues.
Nous, t'es qu'en fou.
Non, mais t'arrives en finale, tu joues.
Pendant 70 minutes.
Là, Tsitsipas, il permet à Djokovic de revenir à hauteur de Rafael Nadal. Et ça, moi, je m'en remettrai pas. Et en plus, j'ai peur pour Rafael Nadal. Franchement, moi, j'ai extrêmement peur qu'on soit sur la fin. Et de la même manière.
Avoir peur.
Quand tu c'est bien. Les pépins physiques comme ça.
Ouais, après il a âgé aussi, il vient d'avoir un enfant aussi, il y a peut-être d'autres choses à penser.
Oui, oui.
Et non, moi ça me fait extrêmement peur parce que là on est en train de tout perdre là. On a perdu Federer, on perd Nadal, il va rester que Djokovic, que je rappelle, moi j'apprécie pas ce joueur là. Je trouve qu'il est hautain, arrogant, en but de sa personne.
Il a pleuré hein, donc il était un
Oui, il a pleuré, voilà. Il a pleuré parce qu'il sait qu'il va bientôt dépasser Rafael Nadal, c'est dans les clous.
Mais c'est bien. Mais c'est une nouvelle génération là qui va arriver.
En tout cas Djokovic c'est pas une nouvelle génération.
Non, mais les tout ce qui est
ceux qui arrivent, les Medvedev, Tsitsipas,
même Dominic Thiem qui revient un peu.
Non, il y a une belle génération. Même Alcaraz, il y a une belle génération.
Cela dit, pour revenir au handball,
oui,
on a quand même un réservoir de joueurs qui est exceptionnel. Et à mon avis,
c'est quand même...
on a vu là, on a vu quelques jeunes avec un talent extraordinaire.
Oui, parce que c'est quand même un sport, on l'a vu, c'est 6 fois champion du monde, 3 fois champion.
C'était en passe d'une session,
3 fois champion d'Europe, 3 fois champion olympique. C'est une équipe qui arrive toujours à se renouveler, quoi. C'est ça qui est quand même remarquable dans ces générations, quoi.
Parce qu'il y a eu les experts, et donc on a perdu Narcisse, Omeyer.
Et puis les femmes derrière qui aussi, ça pousse, hein.
Mais c'est là où la France est incroyablement douée, c'est dans les sports collectifs, en foot,
on
en balle,
partout.
En rugby, en basket. Il y a toujours un vivier qui est incroyable et qui réussit toujours à remonter.
Alors pour revenir au tennis, chez les femmes, c'est Sabalenka, la biélorusse, qui s'est imposée devant Rubikina, la kazakh, 4-6, 6-3, 6-4. Hein, on va rappeler quand même que Caroline Garcia s'est arrêtée en 8e.
Ouais, c'est dommage, elle avait gagné le Master de Paris, elle était sur une bonne dynamique, elle a fait une superbe année 2022. Moi, ça a été une des sportives de l'année. Le côté féminin, c'est la plus belle, les plus belles performances de l'année.
L'équipe a récompensé sportive
de
l'année.
Ouais, voilà. Je l'ai vu et puis je trouve ça complètement mérité. Ouais. C'est dommage. Alors, c'est que ce soit féminin ou masculin, c'est quand même la française à être allée le plus loin.
On a fait le parcours d'un Français en grand chelem, quoi. Ça s'est arrêté au bout de la première semaine. Enfin, 8e, c'est
traditionnellement, c'est ça. Dans le tennis,
à chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours la même chose chez les Français.
Elle a un petit peu de mal à supporter son nouveau statut.
C'est possible.
C'est pas un problème maintenant.
Elle est passée numéro 4e mondial, je crois. Elle a égalé sa meilleure performance de 2018.
Djokovic redevient numéro 1 d'ailleurs.
Logiquement, Alcaraz va passer second. C'est dommage pour la Française. Après, voilà, l'année débute. Il ne faut pas tout remettre en question. Je crois que c'était au 4e tour, elle est tombée. Mais voilà, elle a 29 ans, si je ne m'abuse. Elle a encore beaucoup, beaucoup d'années devant elle. Mais la concurrence est jeune. Hein. Je pense à Swiatek qui a 21 ans, qui est déjà à 3 grands chelems. C'est fantastique.
Allez, on va finir ce beau panorama sportif d'un riche week-end. On va parler patinage. Et oui, on a un Français champion d'Europe. Hein. Adam Scia.
Philippe,
champion d'Europe.
Ça parle de patinage, sachez vers qui se tourner.
En individuel homme, 5e Français à être couronné. Hein. Voilà, donc on a quand même un Français champion d'Europe.
Oui,
hein, c'est bien, c'est bien.
Mais oui, mais oui.
C'est bien. Hein.
Mais bon, puis voilà. Celui-là, au moins, il remporte le titre.
Ouais. Moi, je pense quand même que les gens qui disent que la France n'est pas un pays sportif, c'est pas très bien.
Il n'y a pas de culture sportive et pourtant, on arrive à avoir des bons résultats. Et être présent dans tous les sports.
Moi, je trouve que c'est faux de dire qu'il n'y a pas de culture sportive. Non, moi, par exemple, je suis intéressé que par le foot, mais tant que c'est l'équipe de France, peu importe le sport, je suis devant ma télé.
À l'école, il n'y a pas cette culture sportive. À l'école, il n'y a pas la formation.
On est en haut. En volleyball. En handball. En basket. Chez les hommes et les femmes.
Non, mais bien sûr. Le rugby, peut-être bientôt.
En rugby. Alors, on décote, on domine la planète en tout.
Même en football, les clubs français, les clubs français,
finalistes.
Les féminines.
Bon, le rugby, il y aura le tournoi qui va commencer ce week-end, le week-end prochain qui arrive.
Ah, oui.
Et puis, on aura notre ami François Artigas qui nous donnera un petit coup de main. Hein, il était venu là au début du mois de janvier.
J'ai assis sur un ballon.
Oui,
rond.
Voilà.
Ça l'a écrasé un peu.
Le très rugby bien. Qui a perdu Bernard Laporte.
Oui, ah oui,
qui
oui,
a perdu,
qui a
il est toujours vivant.
Justement.
Il est toujours là avec nous.
Il y a quand même un grand mauvais dans les fédérations en ce moment.
Ouais, 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 ouais,
et il y a l'audit là qui est tombé d'ailleurs sur
le rugby.
C'est-à-dire
de ce que j'ai lu en tout cas, j'ai lu juste la.
Alors, on va finir là-dessus.
Et on nous dit qu'en tout cas, tout le monde en prend pour son grade. Le Grette, Ardouin, ouais, l'audit.
Alors, qu'est-ce qu'il
reste ? Ah oui, l'audit.
Le Comex.
Oui, il vient de tomber là, apparemment. Oui, c'est aujourd'hui.
Ouais, c'est tombé.
Alors, donc, Abou va nous. Va tout nous dire sur les sur donc fait... en tout cas Guy merci hein, pour la venue, ça a été un plaisir hein, de remonter un petit peu la carrière, commenter l'actu foot, à commenter l'actu sport, voilà, être des jeunes qui sont la relève.
Ah mais je suis voilà. Prêt, je suis prêt à les aider.
Voilà, c'est bien. Juliette, à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Lundi 19h.
Toi aussi. Et puis Abou, il finit, il va nous dire...
Le rapport pointe une attitude problématique de M. Le Graët vis-à-vis des femmes. La mission explique comment Noël Le Graët exerce son pouvoir au sein de la FFF davantage comme un gestionnaire d'entreprise assimilable à un PDG que comme un président d'association. Les accès directs au président de certains directeurs sont générateurs de logiques claniques qui ont pu être à l'origine de plusieurs crises de la FFF.
Voilà, donc ça sera le rapport qui est tombé donc
ce et soir. En direct, ça s'est accentué depuis 2018. Depuis la Coupe du Monde 2018, ça s'est dégradé.
Ouais. Bon, je crois que c'est le même sort que Bernard Laporte. Hein. Je pense que
c'est quand même dingue que ce soit dû à des propos tenus contre Zidane que les choses bougent quoi. Après tout ce qu'il a fait,
enfin, ça vient se rajouter au reste. Hein.
Ouais, mais ça arrive un peu tard. Il a quand même 82 ans. Je crois que ça fait quelques années qu'il.
Bien sûr. Je suis d'accord.
Mais voilà, enfin. Merci en tout cas à Jason aussi d'avoir été une nouvelle fois brillamment artiste. Aux manettes ce soir. Et puis on finit avec Dave Brubeck. Ou alors
on finit surtout en souhaitant bon anniversaire, Philippe.
Ah oui,
quand même, minimum.
On va aller boire.
On te souhaite un joyeux anniversaire et encore de très longues années aux antennes de mon Paris Sport.
Ça a été un plaisir. Voilà, en tout cas. Et puis la semaine prochaine, c'est un an d'émission déjà. Oui. Donc vous voyez comme quoi tout arrive ensemble. Ça a été un plaisir ce soir. Et puis on va prolonger ça. Allez, bonne soirée. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut, merci. Thank you.
fait.